Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast, un épisode plébiscité. Je sais que tu l'attends celui-ci avec impatience puisque je vais te partager les coulisses, le débrief de mon dernier lancement de mon programme business YogiBiz Line qui a eu lieu ce mois de mars 2023, si toutefois tu m'écoutes dans le futur. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, si tu viens d'arriver par ici, qu'est-ce que c'est YogiBiz Line ? Eh bien, effectivement, c'est mon programme business que je vends depuis plus de 2 ans maintenant, qui a accueilli à ce jour plus de 300 profs de yoga et qui est une formation sous la forme d'un plan d'action étape par étape pour venir créer et développer ton business de yoga en ajoutant des offres en ligne à ton activité et particulièrement avec ma méthode de la suite d'offres. Au-delà d'être une formation, c'est aussi un programme d'accompagnement puisqu'il y a du coaching collectif à raison de 4 séances avec chacune leur thématique par mois. C'est un programme qui a la particularité d'être en accès illimité, donc aussi bien sur la partie des enseignements, des vidéos préenregistrées que des coachings collectifs, et donc un programme qui peut t'accompagner durant tout le développement de ta carrière de yoga, de tes premiers pas dans le business, dans cette activité si tu débutes et que tu n'y connais rien, jusqu'à un niveau plus avancé de l'automatisation, etc., etc. C'est aussi un programme qui a la particularité d'avoir beaucoup de ressources prêtes à l'emploi pour que tu ne te prennes pas la tête avec la technique et que tu puisses aller plus vite. Alors, si je parle de lancement, il ne s'agit pas dans mon cas d'un lancement type porte ouverte ou porte fermée, entre guillemets, donc sur un programme en fait que je lance qu'une fois ou que plusieurs fois par an, puisque pour remettre un petit peu de contexte dans tout ça, j'ai fait le choix depuis janvier 2022, donc ça fait un petit peu plus d'un an maintenant, de rendre YogiBiz Line disponible toute l'année, donc c'est ce qu'on appelle en evergreen, ce qui veut dire que tu peux rejoindre le programme YogiBiz Line quand tu veux, tu peux rejoindre YogiBiz Line aujourd'hui si tu le souhaites, toutes les informations sont dans les notes de cet épisode, mais donc si je parle de lancement, ou en tout cas quand je parle de lancement, c'est plutôt comme un momentum, un temps fort en fait, que je décide d'organiser sur une période donnée, pour créer l'événement autour de mon programme. C'est pas parce que notre programme ou notre offre ou notre formation, elle est disponible toute l'année, qu'on doit pas par moment la remettre en avant et créer un momentum autour de ça. Et bah pourquoi pas justement profiter de cet événement, de cette actualité qu'on va créer autour de notre offre pour aussi bah, proposer un petit peu une offre exclusive ou un bonus en particulier, etc. Donc moi, pour cette fois, j'ai décidé justement d'organiser un challenge live. Le dernier événement de lancement que j'avais fait, c'était une masterclass et ça remonte déjà à janvier 2022. Donc en fait, il y a un an, hein, finalement, on peut dire que j'ai créé des événements autour de mon programme une fois par an, en tout cas pour l'instant. Et tout le reste du temps, en fait, mon programme se vend en continu grâce à ma stratégie de contenu organique et ma stratégie d'emailing et quelques automatisations aussi d'emailing. Donc après cette masterclass de janvier 2022, masterclass d'ailleurs qui reviendra elle aussi bientôt, eh bien cette fois effectivement j'ai décidé d'organiser un challenge qui s'appelait donc 3 jours pour créer ta suite d'offres et oser vivre pleinement de ton yoga. Et c'est un challenge qui a eu lieu du lundi 13 au mercredi 15 mars. Et à l'issue de ce challenge, je proposais, alors pas vraiment à l'issue d'ailleurs parce qu'au milieu de ce challenge, on reviendra sur cet aspect-là d'ailleurs, j'ai proposé une offre exclusive pour rejoindre YogiBizLine. Donc je reviendrai sur l'ensemble de ces détails, quel genre d'offre j'ai proposé, pourquoi j'ai fait un challenge, quel contenu il y avait à l'intérieur de ce challenge, quelle stratégie marketing de pré-lancement et de lancement j'ai utilisé, quelles ont été les dates, les chiffres, les résultats, mais aussi mes ressentis, ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. Donc vraiment, je vais essayer de te partager tout ça dans cet épisode. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, j'avais juste envie de faire un petit disclaimer. Vous allez constater au fil de cet épisode, et vous le savez probablement déjà, qu'il s'agit d'un lancement vraiment réussi, avec des beaux résultats. Et même si je ne vais pas m'étaler sur les chiffres, je veux que cet épisode soit complet et transparent, donc il y en aura forcément quelques-uns. Ce que je tiens à préciser par rapport à ça, c'est que ce challenge, c'est pas un événement isolé. Et mes résultats, en fait, sont pas dus à ce que j'ai mis en place sur ces 15 jours de challenge. Je travaille et je travaille sur cette offre et je vends cette offre depuis plus de 24 mois maintenant. Je suis restée alignée depuis le début à mon client idéal, à ma promesse. J'ai pas bifurqué, j'ai pas changé de business model, de stratégie, de client idéal, de positionnement. Depuis tout autant de temps, je n'ai pas non plus disparu de la circulation pendant plusieurs mois. Donc, c'est pas quelque chose qui s'est construit en un jour. Je suis partie de zéro en fait, hein, et j'ai utilisé d'ailleurs les méthodes aussi que j'enseigne dans YogiBizLine. Et puis, j'ai construit cette communauté de plus de 2000 abonnés sur ma liste aujourd'hui, de plus de 4000 abonnés sur mon compte Instagram aussi, une communauté qui est très qualifiée pour le coup. Mais je l'ai vraiment construit au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Donc, il n'y a pas de stratégie miracle. C'est vraiment un business que j'affine, que j'améliore au quotidien et sans relâche. Donc, il y a forcément d'autres facteurs que juste qu'est-ce que j'ai fait pour ce lancement qui ont joué dans le succès de ce lancement, dans les résultats de ce lancement. Donc, tout ça, c'est forcément à mettre en balance avec ces efforts que je mets en œuvre pour YogiBizLine depuis plus de 24 mois maintenant. Et je pense que c'était important de le rappeler en préambule parce que il n'y a pas de success story du jour au lendemain ou en 24 heures en fait. Donc ça me semblait vraiment très important. Et puis, si je choisis aussi de te partager ces coulisses et ce débrief, évidemment, l'objectif, c'est de te partager ce que j'ai mis en place, qui a fonctionné, parce que idéalement, si tu peux t'en inspirer ou même si tu retiens qu'une chose aujourd'hui que tu pourras appliquer pour ton propre lancement ou ton propre business, j'en serais ravie. Mais j'aimerais aussi, en te partageant cet épisode bilan, t'inciter vraiment à documenter ton parcours, ton entrepreneuriat aussi à toi et les offres que tu lances, les événements de lancement peut-être que tu vas aussi faire dans le futur, avec ce genre d'analyse en fait post-lancement. Pour moi, c'est une routine dans mon quotidien d'entrepreneur. J'ai tout un tas de choses sur lesquelles je fais des bilans. Et en fait, plus j'avance dans le développement de mon business, plus je me rends compte que finalement, toutes ces routines de bilan, c'est un vrai levier de croissance parce que derrière, je peux venir m'appuyer là-dessus pour gagner en temps, en efficacité sur les stratégies à renouveler ou à améliorer ou les choses à recycler. Si je veux reproduire ça dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années. Et je trouve bien dommage que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui se passent de faire des bilans de leur activité, de leur lancement. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut faire des bilans. Donc moi je vais me baser du coup pour faire cet épisode sur le bilan que j'ai fait du coup de mon challenge et ce que je te propose donc c'est de te partager comment j'ai préparé ce lancement, quelles ont été les différentes étapes et mes objectifs, de te partager ma stratégie de lancement, de te partager les résultats de mes ventes et puis même d'aller un petit peu plus loin dans les comportements d'achat, par exemple sur les différents les différentes possibilités de paiement, etc. Donc, te donner quelques chiffres sur aussi ces résultats, comment ils ont évolué au fil des jours de mon lancement, par exemple. Je vais aussi aussi de partager toute ma stratégie de communication avec les contenus qui ont le mieux marché, les thématiques que j'ai abordées, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné in fine, les leçons aussi que je retire de ce lancement pour m'aider à améliorer mon offre, pour m'aider à améliorer mon processus de lancement pour une prochaine fois. Et puis aussi comment je me suis sentie, comment j'ai vécu ce lancement, donc là un petit peu plus au niveau des ressentis personnels. Donc on est parti, si t'es ready aussi de ton côté, et on va démarrer avec la préparation de ce lancement et les objectifs de ce lancement. Donc ce challenge, cet événement on va dire plutôt, s'inscrivait dans mes objectifs annuels. Retranscrit dans mes objectifs de ce premier trimestre. Donc déjà, un de mes premiers objectifs, c'est de développer ma liste email, d'aller chercher de nouvelles personnes dans mon audience, puisque j'ai une audience qui est très nichée, donc c'est important aussi de la renouveler. Donc du coup, j'ai pour objectif effectivement de développer ma liste email, et notamment parce que l'organique à un moment donné peut avoir ses limites quand on vend le même produit depuis des années, je peux dire maintenant, et sur une niche assez petite finalement. Donc de mettre en place de la publicité, et pour mettre en place de la publicité, idéalement on va pas mettre de la publicité sur une offre, on va plutôt mettre de la publicité sur du contenu gratuit ou donc un lead magnet ou effectivement un événement de lancement. Idéalement, mon idée, c'était de développer ma liste email en mettant en place de la publicité sur un événement de lancement comme ce challenge par exemple. Mon deuxième objectif, c'est par la suite de pouvoir utiliser un événement de lancement que je vais faire live, de pouvoir le réutiliser pour le pré-enregistrer finalement et le mettre en evergreen, de façon à avoir un tunnel de vente automatisé pour emmener les gens vers mon offre toute l'année. Donc par exemple, plutôt que de faire des appels à l'action dans mon contenu Instagram ou dans mon podcast, c'est de faire des appels à l'action directement vers mon offre, c'est de faire des appels à l'action vers une ressource gratuite, donc comme un challenge par exemple, que les gens pourraient suivre n'importe quand ils veulent. Et du coup, à la fin de ce challenge préenregistré, d'emmener les gens ou d'inciter les gens à rejoindre mon offre. Quand je dis inciter, c'est en tout cas si ce qu'ils ont vu dans ce contenu gratuit leur a plu, ils peuvent continuer et aller plus loin en travaillant avec moi et en rejoignant mon offre. Donc c'est vraiment de créer toute cette automatisation. Ça fait partie de ce que je veux renforcer dans mon business cette année. J'avais aussi envie de refaire un événement de lancement pour recréer justement ce momentum, et puis tout simplement parce que c'est aussi une stratégie que j'enseigne, j'avais même à l'époque une petite offre, le Yogi Pack Challenge, je sais même plus le nom, je l'ai retiré de la vente, mais donc c'est quand même une stratégie que j'enseigne, je l'enseigne encore dans Yogi Bizline, et donc à partir de là c'est important pour moi de continuer à pratiquer ce que j'enseigne pour pouvoir déjà améliorer mes formations en continu, et j'ai une mise à jour qui est prévue cet été, et pour pouvoir aussi mentorer mes clientes finalement sur ce que j'expérimente et mes enseignements. Donc l'année dernière, j'avais fait une masterclass, donc que j'enseigne aussi, la méthode de la masterclass. Donc cette année, le choix s'est assez naturellement porté sur un challenge. Et puis, je travaille avec une business bestie cette année, dans un petit mastermind qu'on s'est créé à nous deux. Et c'était aussi notre objectif en commun. Donc on a un rétro-planning commun, on partage aussi le travail parfois sur certaines tâches ou certaines missions. Donc il y avait aussi cet élan et cette énergie et ce truc qu'on avait planifié de faire ça ensemble. Donc on va dire aussi que ça engage à le faire, c'est planifié, c'est gravé dans le marbre entre guillemets. Donc on y va. Concernant les objectifs chiffrés, alors j'avais pas de chiffres précis, je sais que je suis toujours en train de dire qu'il faut se fixer des objectifs, mais c'est vrai que quand j'ai décidé de mettre ce challenge en place, comme je vends Yogi Bizline en evergreen, je le voyais un peu plus comme le fait de passer un moment avec mon audience, d'être en live, de créer finalement un contenu qui allait être utile pour ma communauté, un peu comme la cerise sur le sundae, mais je l'avais pas encore trop visualisé comme un outil pour vendre avec un objectif précis finalement. Enfin, en tout cas, évidemment que j'ai toujours visualisé le challenge comme un outil pour vendre, mais dans mon cas, le fait d'être en Evergreen et d'avoir eu de très bons résultats en Evergreen, notamment sur l'année passée, j'étais pas dans une optique d'ultime conversion, on va dire. Du coup, j'ai essayé de me rappeler et de comparer un petit peu, enfin de re-regarder les chiffres des lancements que j'avais déjà pu faire. Et donc j'avais par exemple fait sur un de mes lancements, donc en 2021, mon meilleur lancement que j'avais fait, c'était un lancement à 50 000 euros de chiffre d'affaires. D'ailleurs, tu peux retrouver les épisodes de podcast, je crois qu'il y en a même plusieurs, où je reviens sur ce lancement. Avec la masterclass l'année dernière au mois de janvier, j'avais généré. Alors ce lancement à 50K, il avait quand même la particularité que j'avais rien fait. J'avais pas fait de live, j'avais pas fait de challenge, j'avais pas fait de masterclass. C'était vraiment que mon contenu organique et une séquence d'emails de vente. Et la masterclass de l'année dernière, donc j'avais généré un tout petit peu moins de 30K, 28K. Et puis cette année aussi, donc au-delà du fait que mon offre soit en Evergreen maintenant, je venais de faire une opération là, un peu intuitive, que j'ai sortie du chapeau le matin même pour la Saint-Valentin, où j'avais proposé une offre duo, donc de rejoindre en duo Yogi Bizline. Donc c'était assez récent, puisque c'était pour le 14 février, et j'ai 12 nouvelles personnes qui nous ont rejoints à ce moment-là. Donc j'y voyais honnêtement pas très clair dans la fixation de mes objectifs par rapport à tout ça. Finalement, c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation-là. Et contrairement à tout ce qui se dit sur le marché de la formation en ligne, que j'écoute qu'à moitié d'ailleurs, je dois bien le dire, mais parce que aussi, comme je suis spécialisée et nichée, je suis peut-être un peu moins concernée. Moi, contrairement à ce qui se passe sur le marché, j'ai choisi d'augmenter mes prix cette année. C'est-à-dire que plutôt que de les diminuer comme d'autres, j'ai choisi d'augmenter mes prix puisque Yogi Bizline est passé de 1 297 € au 1er janvier à 1 997 €. Par contre, en revanche, j'ai aussi choisi de renforcer les coachings collectifs puisque je suis passée de 2 coachings à 4 coachings. J'ai aussi choisi de garder l'illimité alors que pendant un moment, j'avais un peu challenger ça. J'étais plutôt partie sur une période de 12 mois, puis finalement, je suis convaincue de nouveau sur l'illimité. Et tout ça, en fait, à mon avis, ça fait sens et ça fait une nette différence aussi dans le fait que les gens vont s'engager, vont payer le juste prix pour une offre qui leur apporte plus de coaching, plus d'illimité, etc. Donc, finalement, avec toutes ces informations-là, mon objectif, il était assez conservateur. Je me disais, ok, l'idée, c'est de pas finir T1 2023, donc à fin mars 2023, de pas être en retard de CA versus A-1. Et puis, j'avais espoir de toucher des personnes qui me connaissent peut-être pas encore avec la mise en place de la pub. Donc je me disais ok, on va essayer de faire au moins le même CA que A-1 et de toucher des nouvelles personnes grâce à la publicité. Alors spoiler alerte, ça a été plutôt un fail la pub, mais je reviendrai dessus. Et voilà. Et après, je pouvais aussi prendre en compte le fait que mon audience avait malgré tout organiquement grossi depuis la dernière masterclass de janvier 2022. Mais comme d'un autre côté, mon programme, il est ouvert toute l'année en Evergreen. Encore une fois, vraiment, c'était assez difficile pour moi d'y voir clair et de projeter un forecast. Donc, au doigt mouillé. In fine, je visais entre 10 et 20 personnes qui pourraient potentiellement me rejoindre après ce challenge. Donc ça, c'est pour la fixation des objectifs. Ensuite, donc comment j'ai préparé tout ça? Eh bien, les dates du challenge, ou en tout cas, la fourchette large partager ce challenge, ça a été fixé donc au moment où j'ai planifié mon trimestre, puisque je planifie toujours mes objectifs du trimestre. Et à partir de là, en fait, j'ai ensuite fait un rétro-planning et à partir de ces dates-là, donc l'idée c'était de faire le challenge, on va dire, sur à partir de mi-mars, eh bien, il y a toute la stratégie de pré-lancement que j'ai pu mettre en place puisque, évidemment, comme je te le disais, j'ai pas tout misé sur ces 15 jours-là. Donc, j'ai mis des choses en place en amont, au-delà du fait que je travaille depuis 24 mois sur cette offre-là, mais j'ai aussi mis des choses en amont, hein, ce qu'on appelle un pré-lancement, pour arriver jusqu'à ce moment du lancement. Donc la première étape, ça a été de mettre en place un lead magnet. Donc l'idée en mettant en place ce lead magnet, c'est d'attirer de nouvelles personnes dans ma liste email. Et cette année, le choix s'est porté sur un quiz. Et c'était pas un choix au hasard. L'idée derrière ce quiz, c'était aussi d'identifier... puisque c'est un quiz où les répondants, en fait, me permettent d'avoir différents profils et de savoir un petit peu où en est mon audience, en fait, dans l'avancée de son business. Donc, en échange de ce quiz, elle reçoit un plan d'action, en fait, qui est lié à son niveau, entre guillemets, ou aux étapes où la personne en est dans son business. Et donc, du coup, ça m'a permis un petit peu de scanner mon audience et de voir où étaient les besoins, à quel stade, finalement, se trouvait le plus la majorité de mon audience. Et du coup, d'affiner le sujet du challenge un petit peu en fonction de ça. C'est aussi une segmentation de résultats, hein, qui m'aide pour la suite d'offres, enfin les autres offres que je souhaite mettre en place cette année, mais ça m'a aussi permis, donc stratégiquement, d'affiner le sujet du challenge que j'allais proposer. Donc la mise en place de cette lead magnet avait donc deux objectifs, hein, développer ma liste email. Alors idéalement, ça aurait été bien que je mette déjà de la pub sur ce lead magnet, mais à l'époque, j'avais pas encore enclenché la prestation de service sur la publicité. Donc, j'ai développé ma liste email moins forcément parce que en organique, mais développé quand même. Et puis donc effectivement savoir ce que j'allais proposer par la suite. J'ai aussi mis en place donc un plan de contenu de pré-lancement donc sur Instagram et mon contenu plus long qui est mon podcast qui a commencé fin janvier. Donc j'ai quasiment effectivement mis en place un contenu de pré-lancement de 8 semaines donc ce que j'appelle un simple launch mais que j'ai étalé moi que j'ai fait durer en fait sur 8 semaines. Je vais vous parler plus en détail du type de contenu que j'ai créé quand je parlerai de ma stratégie de communication. Ensuite, j'ai aussi fait le choix de l'événement de lancement. Donc ça, on l'a vu, hein, j'ai choisi un challenge. Et puis, il y a aussi la stratégie d'emailing. Hein, donc bien évidemment, une séquence d'email de vente. Alors, segmentée. Dans le sens où je voulais tester d'habitude j'ai un petit peu de tendance, même si je fais des masterclass ou quoi, à envoyer quand même toutes les infos et toutes les séquences d'emails de vente à ma liste entière. Et là, j'avais envie de segmenter et vraiment de m'adresser aux personnes qui avaient manifesté le plus d'intérêt pour le challenge et donc probablement qui étaient le plus chaudes ou le plus engagées pour rejoindre Yogi Bizline. Donc, en fait, lead magnet, plan de contenu de pré-lancement, événement de lancement et séquence email de vente, j'ai tout simplement utilisé ce que j'enseigne dans Yogi Bizline. Donc vendre par le contenu, vendre par le contenu qui réchauffe l'audience, vendre par challenge et puis vendre par liste email. Alors en parallèle de tout ça, j'ai mené aussi d'autres comment dire, un autre travail de fond, c'est-à-dire que j'ai continué aussi à travailler sur l'amélioration du programme parce que c'est hyper important pour un lancement, ou en tout cas pour mettre toutes les chances de son côté, d'être hyper confiante en son offre, en fait, quand on fait un lancement. Si on commence à avoir des doutes sur notre offre, sur le fait d'avoir la capacité à accueillir de nouvelles personnes, par exemple, la capacité à coacher un groupe plus gros ou autre, eh bien, clairement, on peut vraiment auto-saboter son lancement et ses ventes. Donc, moi, je savais qu'il fallait que j'améliore certaines choses. J'avais... pour être fière, pour être confiante, pour avoir envie de reparler à nouveau de mon programme. Donc, notamment à l'intérieur, hein, j'avais envie d'avoir un livret un carnet de bord, un livret avec tous les exercices de tout le programme regroupé. J'avais envie d'avoir de nouveaux témoignages, de mettre en avant de nouvelles personnes. J'avais besoin de réorganiser un petit peu les modules. J'avais besoin de remettre à jour les tutos. Et puis, suite à des tables rondes qu'on a mises en place avec mon assistante pour avoir des feedbacks sur le programme, j'avais identifié aussi le fait qu'on était de plus en plus nombreuses en coaching collectif. Et puis, comme c'est un programme où on peut être débutant à avancer, j'avais de plus en plus envie de proposer des thématiques de coaching collectif qui correspondent aux différentes étapes du programme. Donc, j'ai aussi finalement doublé ces coachings collectifs mensuel. Et donc ça, c'était important pour moi d'être au clair et de me dire, ok, s'il y a du monde qui rentre, j'ai de la place, j'ai fait la place pour ça, j'ai préparé le terrain, on est au clair, je sais que voilà, mon module d'accueil, il est nickel, enfin, tout a été remis à plat en fait. Donc ça, c'est extrêmement important de penser aussi à travailler sur l'amélioration de son programme en vue d'un lancement ou d'un événement où on va venir vraiment le mettre en avant. Deuxième chose, remettre à jour mon site pour qu'il soit toujours en cohérence avec mes nouveaux objectifs, mes nouvelles ressources, peut-être des nouvelles photos, etc., une identité visuelle qui aurait pu évoluer. Donc, j'ai aussi en parallèle mis en place la refonte du site. Alors, c'est pas moi qui m'en charge, hein, c'est Aurore, ma web designer. Et puis, je l'ai aussi chargée du coup de faire une page de vente sur mon site Show8 et de prendre aussi en charge la page d'inscription au challenge, ce que je voulais que ce soit fait sur mon site pour optimiser mon SEO. J'ai aussi donc mis en place la publicité. Donc c'est pareil, hein, comme c'était la première fois que j'allais mettre de la publicité, il y a un petit peu de choses à mettre en place en amont, puis il faut se faire connaître, si j'ai bien tout compris aussi, par Facebook. Donc ça a demandé aussi quelques allers-retours avec ma prestataire sur la publicité. J'ai aussi prévu des batchings d'interviews de podcasts puisque moi c'est un petit peu ma signature pour avoir les témoignages de mes clients. J'adore que ça se fasse sur mes podcasts. Ça pourrait très bien se faire en live sur Instagram, ça peut se faire aussi en texte ou autre, mais ou en petite vidéo. Moi j'adore faire ça par interview et donc c'était nécessaire que je prenne le temps déjà de contacter plusieurs élèves de YogiBizLine et puis de les inviter et de prévoir ces créneaux pour faire ces épisodes de podcast. Donc il y a eu ça aussi à organiser. Et puis, alors j'aurais pu en parler au moment où j'ai parlé de la refonte du site, mais c'est vrai que j'ai décidé aussi de remettre en avant des articles de blog. Donc ça, c'est pour m'attirer des nouvelles personnes par rapport à mon référencement naturel. Évidemment, comme c'est tout nouveau, on va dire qu'il n'y a pas eu encore d'impact, en tout cas pas sur ce lancement-là. Mais donc, on voit que c'est pas juste faire 3 posts sur Instagram et faire un challenge. Il y a vraiment toute une stratégie autour. C'est pas un truc isolé qui fait aussi que ça fonctionne. C'est tout un ensemble de choses pour avoir cette cohérence-là. Donc, on arrive maintenant à ma stratégie de lancement. Donc, ma stratégie de lancement, j'ai choisi le challenge. Donc, le choix de l'événement de lancement, un challenge. Donc, comment j'ai choisi le sujet ? Tout simplement, pour moi, dans un challenge, l'idée, c'est quel est le point de blocage numéro 1 de la majorité en fait de mon audience d'une part. Alors je dis pas trop leurs problématiques ou quoi, mais vraiment ce qui moi je sais, ce qui fait que ça les empêche de passer à l'étape d'après et qui reste un point difficile ou un point de blocage, et aussi ce que j'ai pu constater chez mes clientes. Et donc globalement c'est toujours la même histoire, c'est le positionnement, la niche. Alors c'est assez normal parce que au-delà de pas toujours trouver les mots pour l'exprimer, c'est souvent un problème d'oser, d'assumer, se positionner, de prendre une décision, de faire un choix. Bon, ça, c'est très compliqué. Donc, pour moi, c'était important que ce challenge, il amène un point de déblocage là-dessus pour que les gens aient envie ensuite d'aller plus loin ou en tout cas se sentent armés, en confiance pour aller plus loin, se dire maintenant que je sais ça ou que j'ai trouvé ça ou que j'y vois plus clair là-dessus, eh bien je peux me projeter dans l'étape d'après. Mais tant que ce point de blocage-là, il n'est pas explosé ou dégommé, bah, du coup, forcément, on va avoir des freins à l'achat ou des freins, donc, du coup, à aller plus loin. Donc ça, c'était vraiment super important pour moi et ça correspond aussi au résultat que j'ai eu dans le challenge avec une majorité de gens qui sont dans ces premières étapes-là du business. C'était aussi important pour moi lors de ce challenge de venir dégommer quelle pouvait être une des fausses croyances de mon audience ou une erreur, l'erreur la plus souvent faite, c'est-à-dire c'est de courir après la visibilité avant même finalement d'avoir des offres, de justement avoir des offres cohérentes, etc. Donc ça, c'était important pour moi aussi de dégommer ça dans mon challenge et de montrer qu'en fait, on n'avait pas... Parce que derrière la visibilité, il y a « je veux toujours trouver des solutions pour comment avoir plus de clients, comment avoir plus d'abonnés, comment être plus visible, etc. » Donc c'était important pour moi de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir 150 000 followers pour développer un business de yoga et pour pouvoir en vivre. C'était aussi important pour moi de répondre à une question que j'ai très souvent. Je ne sais pas quelles offres créer et je ne sais pas à quel prix les vendre. Et c'était également important pour moi de répondre au désir de mes clientes, le désir principal qui est de réussir à vivre du yoga, à vivre complètement hein, du yoga et puis d'avoir aussi cette liberté un peu de temps et cette liberté aussi géographique, bien évidemment aussi la liberté financière, mais ça on le retrouve dans Vivre du Yoga. Et enfin, c'était important de mon côté que je puisse aussi renouveler, montrer mon expertise. Et mon expertise, moi, c'est ma méthode, donc de la suite d'offres. Et c'est bien évidemment aussi ma preuve sociale avec les résultats de mes clientes. Donc, tout ça, c'était comment j'ai effectivement défini le sujet de mon challenge. Il fallait que ça réponde à toutes ces ce cahier des charges-là, ok ? L'objectif du challenge, c'était bien évidemment de donner envie de rejoindre Yogi Bizline, c'est-à-dire que une fois que mon challenger, il sait à qui il s'adresse, donc il a eu le déblocage là-dessus, qui sait quelles offres créer pour atteindre ses objectifs de revenus et combien de clients potentiellement il doit aller toucher et donc qui dégomme cette fausse croyance de la visibilité de beaucoup de clients, de beaucoup de monde, etc. Alors, il peut réaliser que c'est atteignable avec cette méthode et donc rejoindre Yogi Bizline en étant prêt à s'investir, à passer à l'action. Et moi, en fait, Yogi Bizline, c'est la suite logique pour venir créer concrètement le contenu de ces offres stratégiquement et techniquement, apprendre comment les vendre et puis ensuite mettre en place des automatisations et apprendre à vendre en continu. Donc on voit vraiment à quel point c'est important de connaître son client idéal, ses points de blocage, ses fausses croyances, les questions qui se posent, son plus grand désir, etc. Et aussi de venir mettre en avant c'est quoi nous notre élément différenciateur ou notre méthode, comme moi par exemple la suite d'offres ainsi que de la preuve sociale, pour vraiment créer un challenge en fait qui a du sens. C'est pas juste un truc comme ça pour se dire ça va faire plaisir, c'est fun, c'est un super sujet, c'est tendance. Voilà, ça demande quand même un petit peu plus de réflexion que ça. Le format maintenant, donc moi j'ai basé le format de mon challenge sur comment j'avais envie de me sentir et de préserver aussi mon énergie, parce qu'un lancement c'est pas juste le temps de l'événement en fait, derrière après il y a tout le temps des portes ouvertes entre guillemets, alors moi les portes elles sont ouvertes toute l'année, mais faut soutenir l'offre exclusive hein, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, et puis ensuite, et ça c'est la partie qu'on a un peu tendance à oublier, quand là on arrive là, nous on est bien crevés, mais on a nos clientes qui sont au taquet, qui viennent d'arriver dans notre offre et puis qu'attendent qu'on soit là à ce moment-là. Donc l'idée, un challenge, c'est tout ça en fait. Hein. Donc c'est le temps de travail de préparation avant, c'est le moment du challenge, c'est le moment de la vente et puis c'est aussi après l'onboarding des nouvelles clientes. Donc comment j'avais envie de me sentir et qu'est-ce qui était le plus dans le respect de mon écologie personnelle, de mon fonctionnement énergétique. Donc moi, je suis toujours à la recherche de liberté et le moins d'emprise possible dans mon emploi du temps. Et d'un autre côté, j'adore être en live. Donc un événement en direct, c'est parfait pour moi. Je préfère 10 000 fois ça que de devoir enregistrer des vidéos, les uploader, parce que voilà, je les recommence 150 000 fois. Enfin, je perds un temps fou. En direct, au moins, il n'y a pas ça. En plus, je trouve que ça crée plus de liens. Il y a cette dynamique d'être en direct. Et puis, je voulais aussi quelque chose de léger et d'assez rapide. Donc, 3 jours pour moi, un challenge de 3 jours, c'était vraiment le format idéal, le format parfait. Et donc, c'est comme ça qu'est né 3 jours pour créer ta suite d'offres et oser enfin vivre pleinement de ton yoga. Donc, avec jour 1, les clés d'une suite d'offres qui convertit. Donc là, effectivement, on est rentré dans le fait de dégommer tout de suite, dès le premier jour, toutes les fausses croyances autour de la niche, et on est venu démocratiser un peu tout ça, simplifier tout ça. Donc ça a créé des vrais déclics. Le jour 2, c'était les 3 étapes pour définir sa suite d'offres, et le jour 3, c'était comment atteindre ses objectifs de revenus. Et donc vraiment avec des calculs et tout, enfin bref, c'était un super challenge. Le principe, c'était que tout soit sur un groupe Facebook dédié. Donc moi, j'avais vraiment la volonté que tout soit au même endroit. J'avais participé à des groupes Facebook avec où le challenge, il est organisé parce qu'on peut créer des guides sur Facebook. Et je trouve que ça rend les choses assez claires. Donc on peut avoir tout au même endroit, c'est assez lisible. Du coup, j'avais évité, enfin j'avais, déverrouillé le fait que n'importe qui puisse poster des commentaires en créant des publications. Donc en fait, les seuls commentaires, c'était possible de commander sous les publications que moi j'avais fait ou sous le replay du challenge. Donc du coup, le cadre était quand même assez clair. Et quand on arrivait dans le groupe Facebook, on s'y retrouvait assez facilement. Il y avait donc un live par jour en direct à 14h, des lives de 1h à 1h30. J'ai utilisé la possibilité de relier Zoom à un groupe Facebook dédié. Franchement, c'est la première fois que je faisais ça, donc on s'est un peu pris la tête sur la technique, mais en vrai, c'est assez simple, ça marche très bien. Et j'ai trouvé ça super agréable parce que du coup, déjà d'une part, j'ai pas eu à investir dans l'option Zoom Webinaire ou dans je ne sais quel outil de webinaire qui finalement fonctionne pas toujours très bien. En plus, moi, ça me permet d'avoir quand même les vidéos enregistrées sur Zoom, donc de les garder. Et puis pendant que je diffuse du coup mes slides, etc., je peux voir les commentaires soit sur un autre ordinateur, soit sur mon téléphone. Et donc finalement, c'est assez fluide. J'ai trouvé ça assez agréable. Au-delà du live, il y avait donc un workbook par jour avec un exercice chaque jour, donc un exercice vraiment un thème. Et puis l'idée, c'était de venir partager dans le groupe Facebook les résultats un petit peu de cet exercice pour que ce soit quand même interactif et puis surtout que moi aussi je puisse du coup coacher, répondre aux questions, etc. Et les replays donc étaient disponibles jusqu'à la fin du lancement. Donc jusqu'à la fin de l'offre exclusive, on pouvait aussi rejoindre le challenge pendant le cours du challenge ou même après, une fois qu'il était terminé, pour profiter des replays. Donc vraiment, tout était au même endroit. Et j'ai aussi créé, alors sur l'initiative d'Aurore, ma web designer, un lien récapitulatif sur mon site. Et donc sur ce lien, il y avait vraiment bien tous les replays de chaque jour, tous les exercices workbook de chaque jour, la publication sur le groupe direct où on pouvait retrouver l'exercice. Donc ça, c'était super aussi pour les gens qui arrivaient en cours de route et qui pouvaient tout retrouver au même endroit. Il y avait aussi à côté de ça des mails, donc un mail récapitulatif par jour qui rappelait ce qu'on avait fait, un mail de rappel avant le live. Et puis évidemment, pour les personnes qui se sont inscrites jusqu'au dernier jour, mais jusqu'au dernier vendredi, je crois, il y avait une campagne d'onboarding, donc évidemment un mail de bienvenue avec notamment qui incitait à partager un template pour dire je participe à ce challenge. Donc ça, l'idée, c'était d'avoir des partages en story, du coup, pour inciter d'autres personnes à s'inscrire. Et il y avait un concours sur le fait de partager ce template en story. Et puis, dans cette campagne d'onboarding, il y avait un deuxième mail qui arrivait 48 heures après avec un questionnaire. Donc ça, c'est hyper intéressant avant un événement parce que ça permet justement de regarder les attentes des gens, de pouvoir éventuellement affiner le contenu du challenge ou de s'en servir pour savoir aussi ce qu'on va pouvoir mettre en avant, par exemple quand on va parler de notre offre ou de ce qui est à l'intérieur, s'il y a des attentes, des demandes en particulier et qu'on sait que il y a ça dans notre offre, ça nous permet voilà de répondre déjà, de devancer entre guillemets certaines questions. Et puis il y avait un troisième mail dans cette campagne d'onboarding, donc qui arrivait encore 48 heures après, qui était un mail de ressources complémentaires. Donc moi j'ai dû mettre en avant ma bibliothèque privée et de témoignages. Donc moi j'ai pu remettre en avant les témoignages podcast, donc renvoyer vers mon podcast. Donc ça c'est aussi une manière en fait que les gens s'ils nous connaissent pas encore, en 2-3 mails. Déjà, nous, on les connaît mieux grâce au questionnaire. Et puis, eux, ils peuvent aussi voir un petit peu ce qu'on a d'autre en dehors du challenge qu'on va leur proposer. Pendant ce challenge, il y avait aussi 2 lots à gagner. Donc, moi, j'ai mis à gagner un coaching one-one, sachant qu'en plus, comme je n'en vends plus, c'est une des seules façons, en fait, de travailler en direct avec moi. Et puis, j'avais mis aussi, effectivement, un accès à YogiBizLine. Ça c'était pour inciter en fait les repartages et l'engagement pendant le challenge et ça a plutôt bien fonctionné puisque tout au long du challenge j'ai continué à avoir des inscriptions. Je crois qu'il y a plus d'une centaine d'inscriptions d'écart entre le premier jour où on a démarré le challenge et le dernier jour, donc c'est assez positif pour moi. Petit détail, mais j'ai démarré la promotion pour s'inscrire au challenge le 23 février, donc en fait 18 jours avant l'événement, ce qui peut paraître comme ça sur le papier assez long, mais moi je suis très à l'aise avec ça parce que justement ça me laisse le temps d'en parler, ça me laisse le temps de faire des appels à l'action, ça me laisse le temps d'observer ce qui se passe, comment les gens réagissent. Je considère en fait qu'aujourd'hui tout va trop vite et on croit que les gens ils ont que ça à faire de voir nos petits événements, de s'inscrire, de connaître tout ce qu'on organise par cœur, etc. Mais je pense que de revoir le message plusieurs fois, ça finit par peut-être inciter à s'inscrire. Ça laisse le temps aussi aux gens de s'inscrire, de s'organiser pour participer. Donc, on optimise aussi peut-être les chances d'avoir du monde en live. Et l'idée, c'était surtout pas que ce challenge, ça devienne comme une urgence de plus dans le quotidien de mes clients, de mes potentiels clients. Je trouve ça super important. Mais qu'au contraire, ils puissent s'organiser un petit peu comme s'ils allaient d'ailleurs suivre une formation. J'insiste sur ce point parce que je constate que même chez mes élèves, c'est des choses dont on peut discuter, mais je constate souvent que les lancements sont très courts, très rapides, un peu comme si on voulait vite s'en débarrasser, vite que ça se termine. Et en fait, je pense qu'on oublie que notre audience, elle est pas plongée dans tout ce qu'on propose et dans tout ce qu'on prépare et dans tout ce qu'on mijote autant que nous. Et donc, des fois, il faut un certain temps, je trouve, pour capter les choses. Et quand ça va trop vite, on laisse tomber, en fait, on n'y va pas. Donc, j'en profite pour passer ce message. Concernant la page d'inscription à mon challenge, elle était un petit peu plus travaillée que d'habitude. J'avais fait bosser Aurore et effectivement, elle était pour cette fois-ci hébergée sur mon site. Encore une fois, c'est juste pour une question de SEO. Donc ça, c'est une partie que j'avais déléguée à Aurore. Alors évidemment, j'avais fait toute la rédaction en amont, mais après la mise en page, c'est Aurore qui s'en est chargée. Tout le contenu du challenge, ce qu'on allait mettre à l'intérieur, ça, je l'ai préparé quand j'étais à Bali avec ma business bestie. Les slides, je les ai préparés la semaine précédant le challenge. Et puis, le 26 février, donc, mon premier appel à l'action pour s'inscrire, ça a été dans un de mes épisodes de podcast. Donc, c'était l'épisode avec le témoignage d'Alexandra. Ensuite, le lendemain, j'ai créé un post un post autour de la suite d'offres. Et puis à la fin, je disais, bah, si tu veux que je t'aide à construire gratuitement ta suite d'offres, envoie-moi un petit DM. Et en fait, j'avais créé un message automatisé sur Insta qui renvoyait vers la page d'inscription du challenge. Et vraiment, la première fois que j'en ai parlé à ma liste, c'était du coup dans la newsletter qui a suivi ce dimanche-là. Où là, bah, du coup, c'était l'invitation officielle pour toute ma liste email à rejoindre le challenge. J'ai ensuite créé le post public officiel sur Instagram le lundi qui a suivi, qui a été designé aussi du coup par Aurore, je lui avais confié ça. Et la campagne de pub commençait également le 27 février, donc le lundi 27 février. Alors il y a eu quelques jours de décalage parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait des pubs pour la première fois, il y a tout un système de validation, de reconnaissance du compte, etc. Donc ça a démarré un petit peu plus tard finalement. Donc le challenge commençait le 13, j'ai ouvert le groupe Facebook le 10, donc j'ai vraiment accueilli tout le monde en même temps, donc ça c'est assez pratique aussi de pas le faire au fil de l'eau, enfin moi j'ai préféré en tout cas. Au moment où on a ouvert le groupe Facebook, donc on avait 456 personnes inscrites et on a fini le challenge avec 587 inscrits. Et sur ces 587 inscrits, on a 536 personnes qui ont rejoint le groupe Facebook. Alors souvent, il y a de la grosse déperdition entre les deux. Donc là, bah, c'est plutôt des bons indicateurs. Et je dirais que là, on voit vraiment l'intérêt d'avoir laissé les portes ouvertes pendant le challenge et même après pour accéder au replay. Et donc, le fait de partager chaque jour ce qui se passait dans le challenge, l'émulation, les commentaires des personnes, de vraiment documenter ça au jour le jour, notamment en stories, hein, parce que moi, je suis une fan des stories. j'ai finalement continué à avoir plus d'une centaine d'inscriptions pendant le challenge en lui-même. Donc ça, je pense que c'est pas à négliger. Et concernant la pub, donc j'ai eu une centaine d'inscrits qui sont venus de la pub, donc ce que je trouve vraiment très très peu, et j'espère faire d'autres performances en termes de pub cette année. J'aurais effectivement aimé avoir plus d'inscrits par ce biais-là, hein, donc plus de prospects, de leads froids. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. J'ai fait appel à une professionnelle, donc vraiment je pensais que ça aurait plus d'impact, mais bon, c'était la première fois, on a toute l'année devant nous pour optimiser ça, donc voilà. Et après, en termes de présence en live, eh bien en moyenne, hein, je crois qu'on a été, on était pas loin de, je sais pas, 80, une centaine, je me rappelle plus, j'ai pas noté la data, mais sur les lives, donc ce qui était plutôt une belle participation du coup en live. Alors, concernant les ventes maintenant, comment ça s'est passé? Parce que le challenge, c'est l'événement gratuit et donc effectivement, après, on enchaîne sur l'offre exclusive, donc sur, on va dire, l'ouverture des ventes et de l'offre exclusive. Donc moi, j'ai ouvert à partir du 14, ce qui veut dire que, en fait, j'ai présenté Yogi Bizline et l'offre exclusive le deuxième jour du challenge. Donc si vous avez suivi, c'était un challenge de 3 jours, ce qui veut dire que j'ai présenté mon offre au milieu du challenge. L'offre, elle était valable jusqu'au 21 mars, donc en réalité, on avait 8 jours de vente, hein, entre le 14 et le 21 mars. Ce que je trouve, moi, important sur cette période de vente, qui peut être plus ou moins longue. Alors moi, je la préfère un peu plus courte que longue pour le coup. Mais ce que je trouve important, c'est d'avoir au moins un week-end dans cette période de vente, d'une part, et aussi de faire attention à pas débarquer en fin de mois, parce que bon, sinon, il y a toujours des histoires de paiement, de compte, d'argent, de attendre tel virement, etc. Donc là, pour le coup, c'était l'idéal de proposer l'offre à partir de la mi-mois, enfin du 14 du mois, mais il faut veiller à pas arriver le 25. C'est un peu tard. J'avais misé aussi sur ce lancement, sur une remise, donc vraiment sur du prix, sachant que, comme je vous l'ai dit, donc mon programme était passé de 1 297 € à 1 997 € au 1er janvier. Donc soit en paiement unique, soit en paiement 6 fois. Et donc contrairement à des tendances à la baisse hein, de programme, moi je suis restée j'ai fait une remise sur mon prix, mais c'est vrai que j'étais très à l'aise d'augmenter mon prix au 1er janvier. Et je pense que en fait le prix quand on voit les résultats du lancement, bah ça a pas été un frein. Alors évidemment, j'imagine que tout le monde n'a pas pu me rejoindre, mais en tout cas, je pense qu'à partir du moment où les gens voient la valeur de l'offre et aussi le fait que mon offre soit disponible toute l'année. Donc en fait, il n'y a pas d'urgence en soi à rejoindre, hein. Oui, on peut profiter de l'offre exclusive, mais voilà, c'est pas j'arrive, je débarque, je te vends mon offre et je repars, et après bah tant pis pour toi, c'est dans un an. Et je pense qu'en fait ça permet aussi aux gens de se familiariser avec notre offre, avec notre tarif. Ils voient la valeur et donc bah ils sont prêts à investir le juste prix. Surtout quand derrière, c'est quand même de l'illimité, du coaching illimité. Donc vraiment, bah après, moi, je suis très à l'aise aussi avec mon prix et je pense que forcément, ça joue en termes de vente. Ce que je voulais pas, par contre, donc je vais vous dire après de quoi était composée exactement l'offre exclusive. Par contre, ce que je voulais pas, ce que j'ai un peu élagué, on va dire, c'est de mettre en avant tout un tas de trucs en bonus, une succession de bonus, des bonus à rallonge. Ça, je sais pas pourquoi, j'y suis devenue un peu allergique, j'avais pas envie de ça. Du coup, je voulais un truc qui soit vraiment très clair, très efficace. Donc, l'offre exclusive, elle était composée de 350€ de remise sur le paiement en une fois, comme un peu un voucher, quoi. Effectivement, évidemment, cette remise-là, elle était répercutée aussi sur le paiement en 6 fois. Ensuite, il y avait aussi la possibilité d'un plan de paiement en 12 fois, donc ce qui n'est pas le cas toute l'année, puisque toute l'année, on peut payer en une fois ou en 6 fois, mais pas en 12 fois. Là aussi, avec répercussion de la remise sur le paiement en 12 fois. Et puis, à ce stade, j'avais mis un seul bonus. Alors évidemment, j'avais mis en avant le fait qu'il y ait l'accès à la formation podcasting. J'avais mis en avant les bénéfices du programme avec tout ce qu'il y a à l'intérieur en termes de prêt à l'emploi, mais j'avais pas forcément présenté ça comme des bonus, en tout cas pas quand j'ai pitché mon offre en fait. Et donc le dernier bonus, c'était cette formation, donc une formation Instagram HD. Donc une formation offerte, un extrait de mon futur programme Business HD, et ça c'était pour tout paiement en une fois avant le dimanche, donc sachant que j'ai ouvert les portes le mardi, ok. Donc ça c'était le package de base qui était prévu. Et donc dans le mode opératoire, je pitchais la remise et le plan de paiement le deuxième jour. Donc je révélais cette offre exclusive le deuxième jour du challenge et puis le bonus Insta Design le troisième et dernier jour du challenge finalement. Et ce qui s'est passé, et je vous expliquerai pourquoi, c'est que en last minute, j'ai ajouté un coaching 1-1 offert pour les 10 premières à rejoindre le programme, donc à partir du 15, puisque du coup je l'ai rajouté le lendemain, jusqu'au 17, donc on va dire sous 48 heures, là aussi pour un paiement en une fois. Et en fait, j'avais pas mal de demandes latentes, enfin voilà, un petit peu dans l'énergie du challenge, il y a des gens qui se sont un petit peu manifestés, qui m'ont envoyé des DM, je commençais à avoir pas mal de demandes en 1-1 et moi j'ai décidé de tenir mes positions cette année au sujet du 1-1 et effectivement du coup j'ai senti que c'était la petite cerise sur le sundae, que ça pouvait être intéressant de mettre un bonus 1-1 en avant. Et effectivement, bah, ça a créé clairement des déclics. D'abord, bah, parce que on a le critère d'urgence sous 48 heures, le critère rareté, il y a que 10 places, et puis il y a pas d'autres possibilités de travailler en 1-1 avec moi. Et bah, très clairement, le fait d'avoir ajouté ce bonus en last minute, c'est ce qui a permis de déclencher la première vente. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que pour le coup, j'ai vraiment respecté ici ma stratégie de manifesteur-générateur. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que j'avais pas prévu et voire même que j'avais pas du tout envie de mettre en place puisque je fais pas de 1-1 cette année. Et en fait, c'est vraiment mon sacral hein, qui a répondu. C'est même pas une action du mental, mais c'est vraiment mon sacral qui a répondu à la situation, qui a répondu aux demandes. Et du coup, c'est pour ça que je me suis autorisée à ajouter ça en last minute. Donc, du coup, bah, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait aucune vente le 14 quand j'ai finalement lancé cette offre exclusive. Alors, je m'y attendais hein, en parlant du challenge en parlant de l'offre en plein milieu du challenge et sans bonus d'urgence, ni limité dans le temps, ni limité en quantité. Donc je m'en doutais que c'est ce qui allait se passer, mais alors je pense que j'étais pas prête parce que j'ai franchement détesté cette sensation, moi qui adore vendre. Parler de mon offre et faire zéro vente dans la foulée, je l'ai vraiment super mal vécu. Alors quand je dis super mal, j'exagère parce qu'en réalité, voilà, j'étais dans le flow du challenge et puis je savais que ça allait arriver. Et puis j'avais déjà eu des demandes, donc il y avait potentiellement déjà des acheteuses. C'était une question de cliquer sur j'achète et je rejoins l'offre. Donc j'avais aucun doute par rapport à ça et c'était ok. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout aimé en fait cette stratégie qui était un test, hein. Mais de parler de mon offre en plein milieu du challenge, c'est pas un truc qui m'a super super plu. Donc voilà, ça fait partie des choses que éventuellement je ne renouvellerai pas. Donc ça s'est décanté dès le lendemain et donc juste pour vous dire effectivement ensuite le bonus one-one, hein, donc les 10 premières places, elles ont été prises en moins de 24 heures finalement. Ensuite, bah, y a eu un peu de vente tous les jours, comme c'est une période qui est quand même assez courte, 8 jours. Du coup, ça a été plutôt bien équilibré. Il y a eu des ventes un peu tous les jours. Il y a eu une petite accélération le samedi et le dimanche puisque c'était ensuite la fin du bonus HD. Et puis, eh bien, j'ai fait ma meilleure journée de vente le dernier jour avec la team Last Minute. Donc comme quoi, alors souvent on dit hein, que dans les derniers jours, on fait à peu près proportionnellement la même chose que les premiers jours. Bon, pour le coup, moi, c'est vraiment le dernier jour où j'ai fait le plus de ventes. Donc là, le message que je veux faire passer, c'est ne jamais abandonner avant la fin, aller jusqu'au bout du plan, jusqu'au bout du bout, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer en last minute. Donc tout ça pour dire que au fil de ces 8 jours, finalement, eh bien, c'est 55 nouvelles personnes qui ont rejoint Yogi Bizline. Alors là, je vous avoue que chaque jour passait et j'en revenais pas moi-même. Et heureusement que j'étais prête. Que j'avais vraiment préparé Yogi Bizline. Je sais pas comment dire, j'avais créé cet espace pour accueillir ces personnes. Parce que si, par exemple, j'avais pas réorganisé les coachings collectifs, je pense que j'aurais pu me saboter mon lancement. Ça aurait pu me faire peur, finalement, de voir autant de personnes arriver d'un coup. Alors que là, ben, au contraire, j'étais vraiment dans une énergie. Enfin, j'ai reçu avec grand plaisir. J'ai vraiment accueilli ça de manière très normale, naturelle. Vraiment, ben, comme quoi, je pense que c'est hyper important de s'assurer que, voilà, on crée l'espace pour recevoir quelque part... ce qu'on a envie de recevoir, ce qu'on espère recevoir et là où on porte notre attention. Donc ça, c'était, c'est vraiment une super réussite, un super lancement, 55 nouvelles personnes. Si on parle chiffres rapidement, donc c'est un chiffre d'affaires total projeté, hein, si tous les paiements étaient en une fois de plus de 90 000 euros de chiffre d'affaires TTC. Donc évidemment, ça représente une somme. Alors je vous rassure hein, là-dessus, il y a beaucoup de choses qui s'en vont, hein, la TVA, les impôts, etc., etc., les prestataires, et encore que j'ai pas eu beaucoup de dépenses. Mais voilà, il en reste quand même, et c'est une très bonne chose. Ça va me permettre aussi de pouvoir développer d'autres offres grâce à cette trésorerie. Et donc pour revenir un petit peu sur les comportements d'achat et sur les plans de paiement. Donc j'avais la possibilité de régler en une fois, en 6 fois, en 12 fois. Eh bien, la grosse surprise, hein, quand même, c'est que la majorité des paiements ont été en une fois, puisque j'ai près de 40 paiements en une fois, 2 paiements en 6 fois et j'ai 41 paiements en une fois, même 2 paiements en 6 fois et 12 paiements en 12 fois. Et alors la petite anecdote, c'est que pour les paiements en 12 fois, c'est quasiment que des paiements qui ont été faits suite au last call, donc le dernier jour. Hein. C'est que des paiements, quasiment des paiements en 12 fois. Donc là, on sent que justement cette facilité de paiement, elle a permis à ces personnes vraiment de bien réfléchir et puis bah, finalement de se décider à y aller grâce à cette facilité de paiement. Et c'est pour ça que souvent c'est des personnes voilà qui ont eu besoin de prendre leur temps, probablement de faire aussi leurs calculs, et c'est complètement ok et c'est juste, et je suis contente de pouvoir proposer ce type de paiement pour que ce soit bah, plus léger dans le budget de mes clientes aussi. Et puis moi bah, de mon côté hein, les paiements en plusieurs fois, ça vient s'ajouter à des revenus récurrents que j'ai déjà. Donc finalement, tout ça mis bout à bout, bah, on arrive à des revenus récurrents qui peuvent avoisiner entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Donc bah, c'est plutôt confortable aussi, parce que rentrer une grosse trésorerie d'un coup, bah, c'est bien. On peut l'utiliser aussi différemment, puis avoir des revenus récurrents, c'est bien aussi. Et quand on commence justement à mieux gérer ses rentrées d'argent, on peut se permettre aussi d'offrir comme ça des facilités de paiement sans se mettre en défaut. Donc bah, tant mieux, parce que finalement, ça devient un peu win-win pour tout le monde. En termes de coûts, parce qu'évidemment, il y a des coûts. Alors, il y a les coûts habituels, mais je dirais qu'il n'y a pas de coûts qui sont liés à ce challenge. Vous avez par exemple partagé les coûts de mon quiz, mais bon, là aujourd'hui ces coûts, bah ils sont passés, hein, ils étaient en janvier. Donc là, vraiment, les seuls coûts que j'ai eu liés à ce challenge, c'est le budget de la campagne publicité. Je compte même pas les coûts de la prestataire, de la mise en place, parce que finalement, derrière, on va travailler sur plusieurs mois ensemble. Donc, c'est aussi une prestation que je vais avoir tous les mois. Mais le budget qu'on a investi et qu'on a mis sur la campagne, c'est même pas 200 euros in fine. Donc, bon, ce qui est pas du tout assez, hein. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas les résultats que j'attendais ou que je pensais avoir. Mais bon, bref, ça, c'est des choses qu'on va retravailler. Encore une fois, c'était un premier jet, un premier essai. On démarre tous de zéro, hein. Donc, ben voilà, moi, c'était ma première expérience en termes de pub. Ce que j'ai investi aussi, bah, c'est avec Aurore, donc en web design, pour la page d'inscription à mon challenge et quelques visuels à Instagram, donc à hauteur de 600 euros. Et puis, bah, même mon assistante, évidemment, elle a aussi contribué. Par exemple, c'est elle qui a fait la mise en page de tous les emails de vente, etc. Mais bon, ça fait partie de son forfait mensuel. Et puis, bah, ce mois-ci, il y avait plus de travail par rapport au challenge sur le challenge. Mais le mois précédent, il y avait plus de travail sur des choses qu'on a améliorées dans le programme. Et donc, bah, in fine, c'est plus ou moins toujours la même enveloppe au mois le mois. Donc, en fait, je peux même pas dire que c'est des coûts liés à ce lancement ou au challenge. Donc, finalement, on voit que c'est vraiment une enveloppe budgétaire dédiée au challenge de moins de 1000 euros. Donc, ça reste assez peu, finalement, même s'il y aura d'autres petites dépenses annexes. Et puis, voilà, donc juste au niveau du budget et pour clôturer sur les chiffres. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de la stratégie de communication que j'ai mis en place. Je vois que ça fait déjà une heure que je parle, mais je pense que c'est toujours un peu le cas pour ces épisodes bilan. J'ai pas envie de le scinder en deux, donc je vais y aller tout droit. Ça sera un épisode un petit peu plus long à écouter. Mais je suis sur ma lancée, donc je continue. Et là, je vais vous parler du coup de la stratégie de communication que j'ai mis en place. Donc, j'ai utilisé plusieurs canaux de communication. J'ai utilisé bah, le contenu organique sur Instagram, sur mon podcast et évidemment ma liste email. J'ai utilisé donc un petit peu de pub, comme vous l'avez compris. Et puis, en termes de rythme de publication, eh bien, à l'exception des posts où j'ai eu un rythme plus soutenu, j'ai pas changé mes habitudes, c'est-à-dire que ça a été toujours un épisode de podcast par semaine, une newsletter par semaine, des stories tous les jours, bon, sauf quand j'étais dans l'avion ou off. Et bah, concernant les emails, pour le coup, hein, si on les décorrèle des newsletters, évidemment, il y a eu les emails d'inscription au challenge, les emails pendant le challenge et la séquence email de vente. Donc, je rentrerai dans les détails tout à l'heure quand je parlerai de la stratégie d'emailing. Et donc la pub que j'ai déléguée. En termes de publication sur Instagram, ça a été assez variable, mais globalement, j'ai publié 50 posts en 3 mois. Donc ça fait voilà à peine je sais pas, 17 posts par mois, on va dire, si on fait une moyenne. Alors, je suis largement en dessous de ça en temps normal, hein. Moi, je suis pro stories et moins posts. Donc, du coup, voilà, là, j'ai quand même fait un petit effort, un rythme plus soutenu sur les publications. Donc la communication sur Instagram justement, avant le pré-lancement, hein, donc on va dire à fin janvier, j'avais 3855 abonnés contre 4094 à la fin du lancement, à la fermeture des portes, enfin là, à la fin du mois d'ailleurs. Du coup, en moyenne, ça fait une progression de 239 abonnés. J'ai eu aussi quelques clics dans ma bio, donc ça veut dire que il y a eu des renvois vers des appels à action qui ont bien fonctionné, et puis bah alors, toujours pas mal de DM, hein. Moi je convertis beaucoup en DM, donc ça c'est assez classique pour moi parce que comme je suis très présente en stories et en DM, du coup ça marche aussi pendant ces périodes de lancement. Donc effectivement, j'ai fait beaucoup de stories parce que c'est mon format de prédilection, c'est un format qui pour moi est naturel, spontanée, où je peux être plus créative. Donc vraiment, c'est plus mon dada. Alors évidemment, il y a moins de vues en stories que sur certains posts ou quoi. Mais voilà, moi, ça me plaît d'être présente en stories. Donc je m'en sers pour faire des FAQ. Donc répondre à des questions, poser des questions aussi moi beaucoup à mon audience, hein. Tu veux ça, tu es dans telle situation, tu te sens comme ça, et puis je les utilise aussi beaucoup pour promouvoir mes autres contenus ou mes posts. J'utilise aussi beaucoup les stories pour partager des témoignages ou dès que j'ai un feedback, un témoignage ou quelque chose d'intéressant en coaching ou dans le groupe. Donc voilà, c'est vraiment, je peux partager les résultats. J'avais aussi fait un petit jeu, trois mots pour décrire Yogi Bizline, et du coup, bah mes clientes, elles ont vachement participé. J'ai trouvé ça super sympa. Donc vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup d'interactions en story. En stories, en termes de contenu, c'est important pour moi aussi de montrer ma vie avec un business en ligne, puisque finalement c'est aussi ce que je vends, et donc d'incarner ma vision, d'incarner aussi le fait que moi j'ai ce business là pour voyager, que moi j'ai ce business là pour être libre, pour m'occuper de mon fils, pour aussi faire autre chose de mes journées qu'être derrière un ordinateur. Donc je montre aussi comment je m'organise, où je mets mon énergie, comment je travaille, quels sont mes objectifs, et donc mon quotidien autour de tout ça, puisque pour moi quelque part c'est aussi ce que je vends. Et si ma cliente elle a envie d'avoir cette vie là ou de se sentir comme ça ou quoi, c'est aussi l'idée c'est de l'inspirer par ma vie, mon storytelling, mon quotidien. Et puis j'aime beaucoup aussi utiliser les stories pour montrer les coulisses, donc là toutes les coulisses de la préparation de l'événement, faire du teasing, parler régulièrement du nombre d'inscrits, donc faire un petit point un peu comme tous les jours sur il y a tant d'inscrits, mettre en place des comptes à rebours avant le premier jour par exemple. Repartager les templates qui ont été partagés pour dire je participe au challenge. J'en profite aussi pour partager quand on est en coaching co ou de dire qu'est-ce qu'on a fait comme exemple aujourd'hui. J'ai partagé quand j'étais en train de créer mes slides, j'ai partagé quand j'étais en train de créer le groupe Facebook, j'ai partagé quand j'étais en train de créer ma séquence email, et puis j'ai aussi ce que j'ai fait, c'est que tous les contenus que j'ai partagés par email, j'ai essayé de les présenter, de les partager le même jour, hein, mais différemment en story, et ça a plutôt bien marché aussi. J'ai partagé les participations et les feedbacks pendant le challenge. J'ai partagé les résumés de chaque journée de challenge, les commentaires des participants. Et puis, bien évidemment, ma célèbre story avec les noms des clientes qui me rejoignaient au fur et à mesure. J'aime bien célébrer chaque cliente, chaque prénom, chaque nouveau prénom qui rentre dans Yogi Bizline, et jusqu'à célébrer avec vous à minuit le 21 mars en ouvrant une bouteille de champagne pour fêter ce très beau lancement. Donc voilà, vraiment, dans les stories, c'est des FAQ, des témoignages, du storytelling avec mon quotidien avec un business en ligne et ma vision en fait de pourquoi développer un business en ligne. Et puis, tout ce qui est coulisses, teasing, partage d'expérience. Pour les posts, du coup, je suis un petit peu plus... c'est un petit peu plus, organisé. Ça répond à une stratégie de pré-lancement. Donc là, dans les posts, je vais alterner entre les problèmes que je connais de mon client idéal, les fausses croyances que je connais aussi de mon client idéal, les principales erreurs que je vois qu'il fait dans son business, les peurs aussi identifiées ou là où je sais qu'il peut y avoir des blocages. Je vais aussi faire des contenus sur ses objectifs et ses désirs, ce que je sais qu'il veut profondément au fond de lui. Et puis, toujours du storytelling parce que, encore une fois, plus j'avance, plus j'incarne vraiment mon message et ma vision pour mes clientes. Et donc, plus je trouve que c'est important de partager ça. Ça me permet en tout cas d'attirer aussi mes clientes de cœur, des clientes qui ont les mêmes valeurs que moi, des clientes qui ont les mêmes objectifs que moi, donc vraiment tout le monde s'y retrouve. Et donc en fait j'alterne entre ces différents types de contenus dans l'idée d'aller toucher les différents niveaux de conscience. Donc en ce qui me concerne, les niveaux de conscience de mon audience, du coup c'est d'abord de dire que si c'est possible de vivre du yoga en fait. Donc là je vais aller sur des contenus sur comment gagner plus de revenus, comment sortir des cours à l'unité, quel business model choisir, etc. Ensuite, mon deuxième niveau de conscience, c'est d'apporter des conseils pour montrer comment on peut développer son activité de yoga. Donc là, je vais aller souvent sur des contenus que je sais que mes clients aiment et veulent trouver, quoi poster pour vendre, les contenus Instagram qui fonctionnent, mais aussi d'autres types de contenus comme les différentes étapes du business par palier de chiffre d'affaires. Donc vraiment des contenus conseils, des contenus qui montrent aussi mon expertise. Ou encore des contenus un peu toujours storytellé. J'ai pas plus de clients parce que je travaille X heures par jour, donc pour montrer en fait comment on peut avoir plus de clients sans forcément échanger son temps contre de l'argent. Ensuite, j'arrive au niveau de conscience de la solution. Donc c'est quoi moi la solution que je propose à mon client pour qu'il atteigne cet objectif? Eh bien, c'est la suite d'offres. Donc là, je vais lui montrer c'est quoi une suite d'offres, comment ça marche, à quoi ça sert, c'est quoi les bénéfices, pique ma méthode, crée ta suite d'offres, comment tu peux faire plus de chiffre d'affaires sans forcément courir après des nouveaux clients, sans forcément être toujours en lancement. Et là, je vais aussi utiliser beaucoup à ce moment-là les témoignages de mes clientes. Et puis, enfin, je vais effectivement parler de mon offre et je vais plutôt en parler, moi, à travers des études de cas, à travers, encore une fois, des témoignages et à travers, surtout les bénéfices, en fait, donc de mon offre et comment je veux que ma cliente idéale se sente après avoir mis tout ça en place. Et puis, effectivement, il me reste deux types de contenus, du storytelling. Donc là, je vais plutôt aller parler de des vlogs sur mon organisation, mon business en voyage, mon business quand je suis avec mon fils, mon business en ligne, comment je fais pour tout concilier. Donc là, vraiment, je vais parler à ma cible qui partage mes valeurs, qui partage mon message, qui veut aussi de la liberté, qui veut aussi voyager, qui veut continuer à avoir un biz qui tourne pendant qu'elle voyage. Une cible aussi qui est souvent en reconversion, donc qui a d'autres priorités dans sa vie finalement aujourd'hui, peut-être la famille, peut-être de développer d'autres choses. Des personnes aussi qui sont plutôt engagées, autonomes, etc. ou qui veulent aussi l'autonomie financière. Donc ça, je sais que c'est aussi ce genre de post, alors peut-être plus par des vlogs ou par des reels, par les stories aussi évidemment, mais là je parle plus des posts. Donc il y a aussi une partie storytelling au milieu de tout ça, et puis quelques posts HD stratégiquement, alors pas que des posts d'ailleurs, j'avais lancé un épisode de podcast aussi, et puis du coup il y a eu un article de blog par rapport en fait à mon bonus qui était effectivement lié au HD, donc c'était important qu'il y ait quelques petites touches de HD dans ma communication. Les formats qui ont le mieux marché, c'est les formats où je fais genre des avant j'étais comme ça et maintenant c'est comme ça, ou toi avant, toi maintenant, ou toi avant YogiBizLine, toi après YogiBizLine. Donc ça, c'est des formats qui marchent hyper bien. Les formats aussi passer de à en fait en général c'est des formats où soit il y a un slide voilà, genre avant et puis un autre slide avec maintenant, ou alors un slide coupé en deux. Enfin, quand je dis un slide, c'est un post coupé en deux et puis à gauche on a telle situation et à droite telle autre. Bon, on en voit pas mal, mais faut reconnaître que c'est des posts qui marchent bien parce que je pense que c'est assez visible. Hein. À l'époque, on avait un peu là les infographies qui marchaient très bien. Bah finalement, ça y ressemble un peu. Donc voilà, il y avait un post comme ça aussi où j'avais mis ce que tu crois et ce qui fonctionne vraiment, donc avec un slide différent, bah pareil, ça a super bien marché. Ça marche, voilà, c'est vraiment des petits posts qui fonctionnent bien. Ce qui a bien marché aussi, ce qui marche bien pour moi et du coup ce que j'adore aussi faire, c'est tout ce qui est reels plutôt éducatif, face cam avec un sous-titrage assez rapide ou concis en tout cas, voilà, où j'annonce, bah je vais te donner trois conseils ou quatre trucs là-dessus, quatre erreurs machin, etc. Donc ça marche plutôt bien. Les vlogs aussi, en fait, dans l'idée. Justement de partager ce storytelling sur ma vision et mon message, bah c'est assez intéressant. Donc voilà, il y a vraiment un objectif derrière. Et puis ce qui a bien fonctionné aussi et que bah c'était important moi que je refasse parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, c'est le fameux post de présentation, le post qui récapitule vraiment votre offre en détail et puis bah évidemment épingler le post de l'événement du moment, donc en l'occurrence moi c'était le challenge. Donc voilà, et de venir épingler ces posts sur le feed. Effectivement, ça fonctionne aussi plutôt bien. Donc ensuite, il y a eu la communication sur le podcast. Donc là, j'ai eu trois témoignages. Donc en fait, il y a eu globalement, il y a eu plus de quatre épisodes de podcast, mais il y avait en tout cas trois témoignages clientes qui sont sortis pendant la période de challenge. Donc avec celui d'Alex qui annonçait le challenge. Il y en a eu un autre la semaine d'après, celui de Sandrine. Après, il y a eu un épisode solo parce que je voulais couper un petit peu des épisodes interview. Et puis, après, on a re-eu l'interview de Claire. Donc ça, pendant la période de lancement. Alors, très honnêtement, j'ai explosé les nombres d'écoutes sur ces épisodes-là. Donc, c'est vraiment un outil de conversion, je pense, qui est très puissant pour moi. Donc, on avait Alexandra, qui est une coach avec beaucoup d'outils, qui a aussi pas mal d'engagement. Donc, voilà, bah, un épisode qui a été, qui a plu, qui a été pas mal écouté. Une prof, donc Claire, qui est nichée et en même temps qui a deux publics différents. Donc, à la fois le particulier, entre guillemets, et puis les profs de yoga. Donc, je crois que c'est l'épisode qui a remporté le plus de succès. Et on a eu aussi Sandrine. Donc, Sandrine qui est multipassionnée. Donc, en fait, ce qui correspond quand même à une majorité de mes clients. Et donc, bah, là, on a expliqué comment justement elle a créé sa suite d'offres avec une espèce de niche parapluie. Hein, donc, un concept que j'explique assez régulièrement. Donc, bah, pour moi, c'était très puissant aussi de l'interviewer et de partager cette interview pendant mon lancement. Donc en fait, je suis pas tant allée chercher des résultats de chiffres ou de voilà, j'ai préféré aller chercher des profils où en fait on peut, enfin mes clientes, je sais qu'elles peuvent facilement s'identifier. Donc une multipassionnée, une personne qui a beaucoup d'outils et qui était perdue en fait justement sur comment rassembler tous ces outils dans une transformation finalement et dans un positionnement Claire qui s'adresse, voilà, qui a vraiment deux publics et puis Claire qui est une fonceuse, qui teste, qui échoue, qui recommence, qui réussit, etc. Donc ça, je trouvais que c'était hyper intéressant pour mon audience. Et il m'a manqué celui d'Isabelle que j'ai pas eu le temps de partager pendant le lancement. Isabelle, il y avait plutôt l'aspect je suis cinquantenaire et alors ça m'empêche pas de développer un business et c'est ok, j'ai réussi à m'en sortir avec la technique. Donc je l'ai publié post-lancement, mais c'est un épisode aussi qui fonctionne très bien, qui a été très écouté, sur lequel on a eu beaucoup de retours. Et ça, donc c'est vraiment des interviews que j'avais batchées en avance, donc vraiment c'était parfait et je pense que c'est un gros outil de conversion qui fonctionne bien pour moi, hein, mais c'est pas pour ça que ça fonctionne pour tout le monde. J'avais donc entre tous ces interviews prévu un épisode sur la visibilité. Pourquoi ? Bah parce que c'est la plus grosse erreur que font mes clientes. Donc du coup, bah justement, j'en ai profité pendant le lancement pour en parler. Et puis en amont, j'avais aussi refait des épisodes pour reparler de la suite d'offres, réexpliquer c'est quoi une suite d'offres, en fait pour que ce terme, pour rééduquer les gens en fait sur ce terme, parce que ça fait partie de ma méthode, mais c'est vrai que je le mettais pas forcément beaucoup en avant, et donc là j'avais vraiment la volonté, parce que force est de constater que c'est ce qui a fonctionné pour mes clientes, donc c'était vraiment important pour moi que je le remette en avant, que j'en reparle beaucoup. J'ai aussi partagé pas mal d'outils, alors ça c'était un peu plus pour montrer ma pédagogie, comme un peu là un épisode de bilan, hein, on voit vraiment des conseils, de la stratégie, etc. Donc je l'avais fait sur Clockify et sur le quiz, donc ça c'est vraiment pour montrer effectivement un peu ma pédagogie, ma manière d'enseigner, mon process, mon étape par étape, etc. Et puis un peu les coulisses aussi. Et un épisode HD, donc comme je vous ai expliqué, comme il y avait un bonus HD, bon, même si je vais aussi développer un business HD, mais chaque chose en son temps. Et donc, une offre HD, pardon. Mais là, c'était vraiment histoire que les gens ne soient pas perdus avec ce bonus. Et d'ailleurs, c'était peut-être pas le bonus idéal pour le coup. Alors évidemment, ça a beaucoup plu aux gens qui vont le recevoir et voilà. Mais en termes de communication, disons que d'un côté, on a un véhicule qui s'appelle le marketing digital. Et puis de l'autre, on a un autre véhicule qui s'appelle le human design. Et du coup... bon, ça va parce que je pense que j'ai un public averti et puis voilà, les personnes intéressées, bah, on rejoint pour ça et puis celles pas intéressées, on rejoint pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué parce que c'est deux sujets qui méritent à part entière en fait. Donc, c'était peut-être pas le meilleur choix que j'ai fait. Ça m'a pas porté préjudice en tout cas a priori, mais je ferais peut-être autrement une autre fois. Et pour finir sur la communication, donc on a la communication par email. Donc là, bah, moi globalement, finalement, quand je regarde hein, ma liste email, elle a progressé de 200 abonnés. Donc en soi, c'est pas non plus l'euphorie. Alors, ce qui veut dire que, alors, je suis très contente d'avoir 200 abonnés sur ma liste email en plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, du coup, sur tous les gens qui ont participé à mon challenge. Quand on sait qu'il y a 100 personnes qui viennent de la pub, ça veut dire que peut-être que moi, j'ai attiré autant de personnes de manière organique. Mais finalement, les autres personnes étaient déjà dans ma liste email et peut-être même une partie d'entre elles déjà clientes. Donc, si on regarde ça comme ça, on peut se dire qu'effectivement, avoir réussi à transformer et avoir eu 55 nouvelles personnes, finalement, peut-être que le taux de conversion, il est extraordinaire par rapport au nombre de nouvelles personnes, en fait, qui n'étaient pas dans le programme. Mais bah, j'ai pas réussi, en fait, avec les outils que j'ai aujourd'hui, à affiner à ce point-là. Donc... je bois une petite gorgée d'eau, excusez-moi. Donc, cette fois, j'ai bien séparé les inscrits à ma newsletter des inscrits au challenge, puisque je voulais vraiment tester, effectivement, de m'adresser qu'aux personnes qui avaient montré leur intérêt pour le challenge et pour Yogi Bizline, et éviter, du coup, bah, de saouler un petit peu le reste de ma liste email, voilà, ou de m'imposer trop dans la boîte mail. Donc, les inscrits au challenge, ils ont reçu des mails de l'inscription jusqu'à la fin de l'offre exclusive. Alors, j'avais pas exclu les clientes de Yogi Bizline qui ont participé au challenge. Je les avais pas exclus de toute cette séquence email parce que je considère que ça leur sert de template, en fait. Donc, c'est bon pour elles de recevoir ces mails et puis de pourquoi pas s'en inspirer. Mais globalement, donc, pour les inscrits au challenge, c'est une campagne d'une vingtaine d'emails. Je vais les détailler après. Et pour les non-inscrits, du coup, donc les gens de ma liste email mais qui s'étaient pas inscrits au challenge, bah eux, ils ont reçu que 4 emails. Enfin, vous avez reçu, peut-être vous en faites partie, que 4 emails. Donc... globalement, combien il y a de mails en tout? Pour promouvoir l'événement de lancement, finalement, j'en ai parlé dans 3 newsletters. Il y a eu 3 newsletters, invitations, voilà, enfin, j'ai abordé ça de manière différente. Il y a un email qui était sur ma routine pour lancer, ma routine pour créer un événement de lancement. Enfin, voilà, donc vraiment pour promouvoir l'événement de lancement, donc pour s'inscrire au challenge, j'en ai parlé uniquement dans 3 newsletters. Pour les personnes qui s'inscrivaient, il y avait une campagne d'onboarding qui était mise en place, donc avec 3 emails. L'email de bienvenue et de partage du template « Je participe au challenge », le questionnaire et un email de ressources complémentaires et des témoignages podcast. Pendant le challenge, eh bien, il y a eu le mail de « ça y est, le groupe Facebook est ouvert ». Il y a eu chaque jour un mail de rappel pour dire « on est en live dans une heure ». Et puis, chaque jour, l'email de replay, sachant que dans le replay du jour 2, il y avait aussi la présentation de l'offre et de la promo exclusive. Et dans l'email du jour 3, de replay, il y avait aussi les bonus, donc coaching 1-1 et bonus HD. Pour promouvoir l'offre ensuite, donc la séquence d'email de vente, eh bien là c'est simple, donc le challenge c'était du 13 au 15, à partir du 16 il y avait un email par jour, enfin donc à partir du 14 en fait, hein, puisque l'email de replay servait aussi d'email de vente finalement. Donc en tout et pour tout, ça nous a fait 8 mails de vente plus 2 rappels on va dire le dernier jour, donc le dernier jour il y avait 3 emails, du coup donc ça fait 10 mails. Et puis, les 4 que j'ai envoyés à toute ma liste. Donc, j'ai envoyé une fois le jour du dernier live le rappel de dire « on est en live dans une heure ». Donc là, en gros, c'était « bon, c'est un peu ta dernière chance ». Alors, c'était pas la dernière chance de s'inscrire au challenge, mais de participer à l'événement, on va dire. Pour être très honnête, quand j'ai fait le point, je me rappelle plus si je l'avais fait volontairement ou pas, le fait d'envoyer cet email à toute ma liste. Je sais pas si c'était une erreur de ma part dans les tags ou si je l'ai fait volontairement, mais j'ai souvenir que je voulais au moins envoyer un email pendant le challenge à toute ma liste. Donc c'est probablement celui-là que j'ai choisi qui était pas le plus stratégique à mon avis, mais c'est pas grave pour cette fois, c'est fait. J'ai envoyé aussi donc le premier mail de vente, enfin le premier mail, le mail à partir du 16. Pourquoi j'ai envoyé qu'à partir du 16? Parce que je voulais garder les bonus. Vraiment pour les personnes qui avaient participé au challenge. Donc j'ai attendu d'avoir vendu du coup les 10 places pour le bonus 1-1 et j'ai envoyé ensuite cet email à toute la liste à toute ma liste email. Et puis j'ai envoyé aussi une newsletter, donc la newsletter qui est tombée pendant le lancement, le dimanche du lancement, et puis un dernier appel. Un email de dernier appel. Donc, il y a eu 4 emails en tout et pour tout qui ont été envoyés à toute ma liste. Donc, même pour les gens qui s'étaient pas inscrits au challenge. Pour les sujets, j'avoue que j'ai bien travaillé les contenus de mes mails. C'était des contenus inédits. J'avais bien travaillé mes titres aussi. Je les batchais en fait tous ces emails donc sur un Google Doc en fait. Et puis ensuite, derrière, c'est Lucie qui est venue les mettre en forme sur System.io. L'email qui a eu le meilleur taux d'ouverture, c'est l'email recyclé des différents paliers de chiffre d'affaires, différentes étapes et ce qu'il faut faire à chaque palier de chiffre d'affaires. Donc comme quoi, c'est pourtant quelque chose que j'avais partagé en podcast, c'est quelque chose que j'avais partagé en post Instagram et en fait ça reste l'email qui a eu le plus d'ouverture, de taux d'ouverture, donc c'est assez rigolo, comme quoi faut pas avoir peur de répéter et de recycler ses contenus. Et puis là où il y a eu le meilleur taux de clic, donc taux de clic pour aller cliquer sur le programme en fait, hein, sur les liens, c'est quand j'ai envoyé à la liste du challenge, l'email avec l'objet elle était perdue, donc c'est l'email en fait où j'avais les témoignages et la preuve sociale, les parcours de mes clientes. Ce qui a bien fonctionné aussi, c'est l'email avec le quiz. Donc voilà, là j'ai eu vraiment des taux de clic entre 5 et 10%, donc c'est assez haut. Les sujets de mes mails de vente, en gros évidemment il y a eu un mail ouverture des portes. Donc avec un peu le contenu du programme, les croyances qui tuent ton business, il y a eu un mail témoignage, parcours, preuve sociale, étude de cas, qui renvoyait aussi sur les épisodes de podcast. Il y a eu un email, donc les clés de la réussite par palier, donc là c'était pour montrer que de 0 à 10K, tu pouvais tout trouver ce que tu avais besoin dans Yogi Bizline et en même temps apporter des conseils et de la valeur. Il y avait l'email un peu plus ludique avec le quiz, est-ce que c'est pour toi? Il y avait un email de visualisation, de projection. Il y avait un email de contenu gratuit versus contenu payant. Il y avait un email de... donc, dans les derniers emails, c'est « voilà comment ça va se passer si tu rejoins Yogi Bizline. Dans quelques jours, tu auras fait ton audit. Dans quelques semaines, tu auras trouvé ton positionnement. Dans quelques mois, tu auras vendu ta première offre et ainsi de suite. » Donc là, encore une fois, une projection. Et puis, il y avait un email de last call avec une espèce de petite citation, voilà. Et encore une fois, bah, ne pas négliger, puisque je rappelle que j'ai fait 23% des ventes le dernier jour, et c'est donc le jour où j'ai fait le plus de ventes. Donc ne jamais relâcher la communication dans les derniers jours et suivre le plan jusqu'au bout. En termes de newsletter, les contenus que j'avais abordés, hein, donc comme j'ai dit, il y a eu 3 newsletters, donc il y avait « Pourquoi t'es pas confiante et sereine à chaque fin de mois ?» Donc et là j'expliquais bah, que c'est parce que tu avais des offres à petit prix et que aussi bah, des accompagnements avec qui manquaient de soutien, hein, voilà, enfin que tu pouvais pas accompagner tes clients sur le long terme. En gros, ils viennent un peu prendre ton cours de yoga comme un snack et puis voilà, et c'est pas ça que tu veux et finalement c'est pas ça qui est bon pour eux non plus. Donc une newsletter sur ma routine de lancement, donc plus stratégie business, et une newsletter sur communiquer selon ton HD, puisque c'était la newsletter qui est tombée en plein milieu du challenge et qui était le jour de fin du bonus HD. Donc voilà, on arrive, alors on n'arrive pas tout à fait à la fin, mais on arrive au moment où je vais te partager ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Alors moi, tu sais, j'ai pour habitude d'utiliser la méthode qu'est-ce que je garde et que j'amplifie, qu'est-ce que j'améliore, qu'est-ce que je veux plus faire, qu'est-ce que je peux faire de plus pour les prochaines fois. Donc je vais essayer de te résumer ça assez rapidement. En gros, ce qui a fonctionné et ce que je peux réitérer finalement, bah, c'est bien évidemment de continuer, même si j'ai une offre qui est en evergreen et même si toi aussi tu as une offre que tu vends toute l'année, c'est ne pas forcément considérer que ça va se vendre tout seul si t'en parles jamais. Alors oui, ça marche, hein, parce que moi j'ai vendu comme ça sur toute l'année précédente, mais bah, c'est aussi bien d'organiser des événements plutôt live, gratuits, pour créer un petit peu de momentum. Et j'ai été agréablement surprise quand même par le fait que le challenge, bah, c'était toujours quelque chose qui embarque du monde. Et finalement, bah, c'est une stratégie qui est loin d'être périmée, je pense, hein, que tout dépend en fait de ce qu'on met à l'intérieur, de comment on l'anime. Et je me pose même la question de pourquoi pas refaire le même challenge en fait plusieurs fois. Donc ça, c'est une piste de réflexion. Ce qui a bah, donc bien marché effectivement, c'est le contenu que j'ai choisi pour mon challenge. J'ai eu d'excellents retours sur le contenu. Il y a eu des vrais déclics. On m'a dit que c'était des infos bah, hyper généreuses, de qualité, que je faisais aucune rétention. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça a été aussi bien utile pour des prospects, même qui n'ont pas acheté. Voilà, je suis sûre que ça les a aidés. Et aussi utile pour mes clientes finalement, puisque bah entre tout ce que j'apprends dans les vidéos et puis tout moi, je progresse aussi, hein, j'avance, j'améliore, je peaufine aussi mes discours, mes stratégies, mes coachings, etc. Donc bah en attendant une prochaine mise à jour, bah ça a permis aussi d'apporter voilà encore une approche complémentaire en plus du programme. Donc vraiment, c'est un challenge. Enfin, je pense que le contenu était vraiment béton. Alors surtout, c'était du contenu encore inédit que franchement, j'avais vu nulle part. Un contenu riche, un contenu exclusif, un contenu inédit. Et donc, ça a vraiment donné confiance en Yogi Bizline. Donc vraiment, hein, quand je dis, bah, faut pas hésiter à donner. Là, c'est la preuve en fait que bah, c'est pas parce que j'ai donné beaucoup que j'ai pas reçu quoi. Bien au contraire. Et surtout, moi, mon objectif, c'était que les gens soient prêts pour Yogi Bizline. Donc, je voulais qu'on gagne du temps sur cette étape de la niche et que vraiment, ce challenge, ça soit une autoroute vers Yogi Bizline et qu'une fois que je rentre dans Yogi Bizline, bah, je peux encore aller plus vite et pas me perdre dans cette histoire de positionnement et de niche. Donc, ça, c'était super important pour moi. Et aussi, bah, j'ai pu constater que du coup, des entrepreneurs autres que des profs de yoga qui s'étaient lancés dans le challenge, bah, finalement, ont eu envie aussi de travailler avec moi par la suite. Donc, du coup, bah, ça m'a permis aussi de toucher d'autres personnes que les profs de yoga, ce qui bah, est aussi intéressant pour moi parce que je suis contente aussi d'élargir un petit peu mon ciblage, mais j'ai pas forcément envie de l'élargir dans ma communication. Donc du coup bah c'est tant mieux. Ce qui a très bien fonctionné, bah j'ai trouvé, c'était cette alliance là de Zoom et du groupe Facebook. Franchement, bah ça coûte pas un rond en fait, hein, à part l'abonnement Zoom. Alors non pas que je vais pas investir dans des outils, bien au contraire, mais quand je vois certaines personnes qui investissent des sommes dans des outils de webinar et que ça plante, et franchement effectivement c'est très agaçant. Alors là, il y a eu quelques petits soucis de connexion comme il peut y avoir, voilà, mais vraiment ça a été 2-3 personnes, pas plus. Donc, ça venait pas, en tout cas, de la technique. Et donc, j'ai trouvé que c'était tellement basique, simple et que ça fonctionnait très bien. Alors, évidemment, j'ai pas 3000 personnes en live non plus. Mais en tout cas, j'ai vachement apprécié ce fonctionnement-là. Ce qui a bien fonctionné aussi, du coup, et que à réitérer, bah, c'est de vraiment sonder les gens qui s'inscrivent à votre événement avec un questionnaire. Pour affiner aussi le contenu. Le temps du challenge, donc 3 jours, j'ai trouvé que c'était l'idéal pour moi. Et puis, ce qui a bien fonctionné aussi, qui n'était pas prévu de base, c'est que j'ai rajouté une session, en fait, coulisses, porte ouverte, où j'ai emmené les gens à l'intérieur du programme, j'ai répondu à leurs questions. Vraiment, j'ai juste parlé du programme, répondu aux questions. Je les ai emmenés vraiment dans tous les modules, dans les ressources. Je les ai emmenés dans Systemio, donc j'ai vraiment montré les coulisses. Et ça, bah, je pense que la prochaine fois, je le prévoirai dans le package, en fait, parce que c'est vraiment hyper intéressant. Ce qui a bien fonctionné aussi, donc, c'est de laisser les portes du challenge ouvertes pendant et après le challenge, en tout cas jusqu'à ce que le challenge ne soit plus disponible, parce qu'il y a continué à y avoir des inscriptions au fil de l'eau. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi avoir vraiment 18 jours pour que les gens aient le temps de s'inscrire et avoir le temps moi-même, en fait, de communiquer sur cet événement, de créer du contenu sans me dire « oh là là, faut que j'en publie tous les jours », etc. Donc, j'ai pu aussi aller à mon rythme. Évidemment, ce qu'il faut réitérer, bah, c'est l'utilisation de la pub Facebook, je pense, mais bah, clairement, regarder ça d'un peu plus près et l'optimiser. J'étais pas satisfaite des visuels qui étaient un peu en dissonance avec mon image de marque. Il y a eu des erreurs stratégiques aussi qui ont été faites, comme le fait de ne pas avoir dupliqué le tunnel de vente, ce qui fait que je suis incapable aujourd'hui de savoir si dans les personnes qui ont acheté, elles viennent de la pub ou pas. Alors, le seul moyen de le savoir, en fait, ça va être de faire un quiz, un questionnaire manuellement, de leur demander. Mais normalement, j'étais censée avoir ce type de feedback à la fin de la prestation. Donc bon, eh ben, c'est loupé pour cette fois-ci, mais on fera mieux la prochaine fois. Moi, j'y connais rien, donc je pouvais que faire confiance. Et puis, bah voilà, c'est un loupé, ça arrive. Ce qui a bien fonctionné aussi, c'est d'avoir batché tous mes enregistrements de podcast en avance, d'avoir batché tous mes emails en amont. Donc comme ça, bah, j'étais prête, en fait, c'était prêt. Alors, j'ai relu tous les jours, hein, parce que j'étais prête à faire des modifications, à changer un titre, voilà. Mais le gros du travail était fait. D'avoir donné aussi le workbook au jour le jour pour pas spoiler, en fait, et pour vraiment avoir un seul exercice par jour et garder les gens concentrés. C'est un peu mon côté manifesteur générateur, comme on a toujours tendance à aller voir à la fin ce qui va se passer. Du coup, par anticipation, bah là, voilà, j'ai vraiment... donner le workbook au jour le jour. La page récap Show It avec le lien où on retrouve tout au même endroit. Donc ça, c'est génial. Alors, j'avais juste oublié de mettre le lien vers mon offre. Bon, ce que je pense qui est quand même pas inutile. Mais du coup, ça, la page récap, je garde l'idée. Le concours aussi, donc à l'intérieur. Donc, j'ai fait gagner un coaching one-one. Du coup, j'ai eu beaucoup de repartages en story et puis un accès à Yogi Bizline. Par contre, c'est vrai que d'habitude, je le fais. Et puis là, je sais pas, je suis passée à côté. La prochaine fois, je rajouterai un concours directement sur Instagram parce qu'à chaque fois, ça m'apporte beaucoup de visibilité. Comme en général, je demande de taguer 2-3 profs de yoga. Donc ça, vraiment quelque chose à refaire pendant la période de pré-lancement, en fait. Hein. Comme ça, les gens, après, ils ont le temps de me découvrir, de découvrir mon programme, de participer au challenge. Donc là, bah, je sais pas pourquoi je l'ai zappé alors que j'ai l'habitude de... D'ailleurs, c'est souvent une des seules actions que je fais vraiment en termes de stratégie dans un lancement. Donc, bah, ça, à remettre en avant. 8 jours de panier d'ouverture, bah, pour moi, c'était parfait. Le fait aussi d'avoir un emploi du temps libre de tout. Donc, pendant le challenge, à partir du moment où le challenge a commencé, j'avais rien d'autre de prévu dans mon agenda. J'avais rien d'autre à faire. J'avais pas... Bon, éventuellement, j'avais les stories, les machins, les interactions à faire. Mais je m'étais vraiment dédié tout mon temps pour répondre aux messages. Surtout que j'étais en fin de conjonctivite. Donc... j'étais un peu malade, j'aurais pas pu faire grand chose d'autre, je vais y revenir, mais du coup ça m'a vraiment permis de pas stresser, de pas me dire oh là là, j'ai aussi ça à faire, ça, enfin j'ai vraiment pu être concentrée sur mon audience, les gens qui m'envoyaient des messages, les commentaires dans le groupe Facebook, les emails, etc. Donc vraiment, en fait, libérer mon agenda de toute autre contrainte sur cette période du lancement, c'est vraiment indispensable. Le fait de pas démultiplier les bonus aussi, j'ai trouvé que c'était un vrai atout, parce que du coup, c'était beaucoup plus facile de communiquer, c'est plus clair, il y a moins de choses, on se perd moins, et en fait, on disperse pas aussi, on se disperse pas du message principal. J'ai pris conscience aussi que finalement, tout ce que je fais le reste de l'année, hein, de parler du YogiBizLine régulièrement, de partager des témoignages et des études de cas, d'améliorer en continu le programme, vraiment d'être à l'écoute des feedbacks de ma communauté, de mes clientes, tout ça, finalement, en fait, ça fait un peu boule de neige. Il y a quand même l'effet cumulé. C'est bien aussi parce que c'est quand même du travail. C'est aussi des efforts par moment. C'est des sacrifices à d'autres. Alors, c'est jamais des trop gros sacrifices, mais voilà, hein, tout le monde sait ce que c'est d'être fatigué à un moment ou de louper une soirée ou n'importe quoi. Ça nous arrive toutes dans notre business. Et puis, finalement, quand on voit qu'on a des résultats et que tout ce qu'on fait le reste de l'année, ça porte ses fruits sur des moments comme ça, c'est super agréable. Ce que j'ai eu comme feedback aussi, c'est que les gens ont vraiment apprécié pouvoir me parler à moi, me sentir accessible et disponible. Donc, je pense que en fait, garder les moyens de communication habituels, c'est bien aussi. Et quelque chose, voilà, où on a l'habitude de nous contacter, où on a déjà, c'est déjà des points de contact qu'on a avec nos clients. J'ai fait aussi, par exemple, des petites notes vocales. Les gens ont vachement apprécié que, voilà, je leur réponde personnellement, que je prenne le temps pour faire une note vocale. Donc vraiment, ils se sont pas sentis noyés dans un programme, dans un business, en fait. Ils se sont sentis à mon contact. Donc en tout cas, tant que c'est possible, et ça l'est encore, donc je pense que ça, c'est clair que c'est une vraie force pour le coup d'être un peu en marque personnelle dans ce cas-là. Je dirais que c'est une vraie force. J'ai fait le choix aussi de pas prendre des affiliés pendant le lancement, c'est-à-dire que pendant le lancement, je garde l'exclusivité finalement d'un tarif promotionnel, d'une offre exclusive, mais de plutôt donner en fait un tarif promotionnel à mes affiliés pendant le reste de l'année. Et je suis pas mécontente en fait de cette stratégie. Je pense que ça portera ses fruits dans l'année. Et en tout cas, ça évite aussi qu'au moment du lancement, un peu il peut y avoir, je sais pas, de la confusion ou quoi, ou bref, j'ai bien aimé fonctionner comme ça, à voir dans le temps. Et j'ai pas eu non plus besoin d'activer des appels découvertes, et ça, c'est plutôt pas mal, et ça veut dire que finalement les contenus se sont suffis à eux-mêmes, les mails étaient assez clairs, le challenge et le live coulisses questions-réponses que j'ai fait. Enfin voilà, ça veut dire que j'ai réussi justement en me dégageant vraiment du temps et en répondant au maximum aux gens, à leur apporter des réponses, à connecter quand même avec eux par la voix, via des messages vocaux parfois. Et en fait, tant mieux, parce que moi, ça correspond mieux aussi à mon énergie et ma manière de fonctionner. Donc vraiment, j'en ai pas eu besoin. Ce que j'aurais besoin d'améliorer, alors, c'est de préparer. Alors, pour le coup, j'avais pas mal de choses de préparer quand même. Je pense que je pourrais aller encore plus loin en me préparant un petit calendrier éditorial de story, plus dans l'idée de rien oublier, parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à me dire, oh là là, j'ai plein de trucs que j'aimerais bien partager, mais j'avais pas envie de faire 50 stories dans la journée. Ça aurait peut-être mérité effectivement un petit planning éditorial pour mes stories, et puis aussi de préparer quelques visuels en amont. Comme j'avais vraiment dégagé mon emploi du temps de pas mal de choses, j'ai eu quand même le loisir de faire ça tranquillement. Clairement, ce que je dois améliorer aussi, c'est le workbook. Moi, je suis nulle pour les fichiers, l'identité visuelle un peu, l'esthétique. Donc, la prochaine fois, je pense que je le déléguerai aussi à Aurore. ce que j'ai moins aimé, par contre, dans Facebook, c'est... j'avais pas prévu, j'avais pas prévu d'avoir 400, 500, 600, 700 commentaires. Et en fait, très compliqué de trier, savoir à quel message on a répondu, faut rafraîchir tout le temps, etc. Donc ça, pour le coup, c'est vrai que j'ai pas forcément pu répondre à tout comme je voulais, en tout cas aussi vite que je voulais, c'était pas hyper fluide. J'étais souvent obligée d'aller sur mon portable parce que c'était là finalement que je voyais le mieux les derniers messages, etc. Donc ça, j'avoue que bah, d'un côté, j'ai bien aimé pour le lien entre Zoom et Facebook, mais d'un autre côté, s'il y a beaucoup de participation et beaucoup de commentaires, bah, j'ai trouvé que c'était pas terrible, en fait. Et moi, j'aime bien répondre, commenter, etc. Et là, j'ai pas pu le faire autant que je voulais, en tout cas sur cette partie-là. Ce que j'ai pas bien fait non plus au fur et à mesure, c'est de screenshoter avec efficacité bah, tous les commentaires positifs, les retours, les feedbacks que j'ai eus sur le challenge. Et en fait, comme j'ai décidé à la fin du challenge, en tout cas momentanément, d'archiver le groupe, eh ben, du coup, j'ai aussi dû supprimer finalement les replays et tout ça. Et comme ils étaient plus disponibles, et en fait, bah, les commentaires sont partis avec. Et voilà. Je pense que c'est une partie que j'aurais dû déléguer, que quelqu'un s'occupe un petit peu de cette partie-là, de récolter tous ces feedbacks. Donc ça, c'est un petit peu dommage, et bah, c'est à prendre en compte pour la prochaine fois. J'ai aussi observé que fallait que je renforce ma communication, enfin que je sois encore plus claire sur le fait que c'est un programme qui est aussi bien pour les débutants qui n'ont pas forcément encore commencé leur activité que pour des personnes plus avancées, et puis aussi bien recommuniquer sur l'illimité. Alors, il y avait une erreur en plus dans ma FAQ, il y avait indiqué 12 mois, donc du coup ça a pu porter confusion, donc je l'ai corrigé. Mais voilà, ça c'est des messages qu'il faut encore que j'améliore. Bon, je pense que les gens ils en reviennent pas que ce soit illimité, du coup ils y croient pas. Je me suis rendu compte aussi que pour tout ce qui était témoignages, j'avais couru pas mal après des bonnes photos, des témoignages prêts à l'emploi, enfin voilà, donc bah c'est un peu dommage parce que quand on a autant en plus de success stories, de clients, de bons retours et tout, ça serait bien que je mette en place un process toute l'année pour m'y retrouver plus facilement. Et j'avoue que c'est pas là où j'excelle le mieux, donc je vais m'y repencher. Bon, pour tout ce qui concerne la publicité, que ce soit les visuels qui étaient pas à l'image de ma marque, les textes qui étaient pas assez clairs, je pense, au niveau du message. Alors, on avait fait un parti pris de s'adresser à la fois aux entrepreneurs du bien-être et à la fois aux profs de yoga. Et je pense que du coup, ça a créé un peu de confusion, c'est-à-dire qu'entre la pub que certaines personnes voyaient et ce qu'ils voyaient quand ils sont arrivés sur la page d'inscription, même si c'était indiqué plus bas que c'était pour tous les professionnels du bien-être, je pense que j'ai perdu des personnes en cours de route. Et à mon avis, plutôt des entrepreneurs du bien-être qui sont arrivés et ont peut-être vu bah, oser vivre pleinement du yoga en un peu plus gros sur la page d'inscription. Donc bon, ça c'est quelque chose, effectivement, il faut que je sois au clair avec moi-même déjà sur le message, donc que je retravaille ça. Et puis aussi que je me forme au suivi de mes statistiques sur mon site pour justement aller voir quel genre de trafic il y a eu, sur quelle page, etc. Bon, ça je suis pas du tout, moi sur les sites internet, je suis pas du tout affûtée. Qu'est-ce que je peux améliorer d'autre? Alors, c'est vrai que je pensais pas accueillir autant de monde. Du coup, il y avait bah, tout ce qui était déjà en cours pour les clientes actuelles de Yogi Bizline. Il y avait beaucoup de nouvelles choses en plus, des messages dans le groupe Facebook, des mails de table ronde, les nouveaux coachings qui arrivaient, etc. Et du coup, j'ai pas su assez identifier avec un tag spécifique, par exemple, les personnes qui sont rentrées dans la nouvelle version. En fait, elles ont eu le tag Yogi Bizline en tant que cliente Yogi Bizline. Et je pense que je peux encore, même s'il y a déjà un onboarding, même s'il y a eu un coaching collectif qui est arrivé très vite, etc. Mais je pense que je peux encore plus personnaliser l'accueil quand je fais un événement comme ça, en fait, un petit peu plus faire comme si c'était une cohorte. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que je peux encore améliorer en termes d'expérience client. Et finalement, j'aurais aimé avoir un live que avec mes nouvelles clientes. Et puis, bah, ça n'a pas pu se faire parce qu'on a très vite enchaîné sur les coachings. Mais ça, c'est quelque chose... Bah, c'est vrai que j'avais pas forcément anticipé que j'aurais autant de personnes. Donc, bah, 10-15 personnes, ça s'inscrit assez facilement dans la dynamique déjà existante. Mais 55 personnes d'un coup, bah, effectivement, ça devrait se gérer un petit peu différemment. Donc ça, c'est à améliorer de mon côté. La confiance n'exclut pas le contrôle non plus, donc ça plutôt en termes de prestataire. C'est vrai que je déteste faire du micromanagement, mais je commence à comprendre que travailler avec des prestataires, c'est pas comme travailler avec ses employés. Hein. Moi, j'ai été habituée à manager des employés du coup, et en fait, et des cadres en plus. Et bon, je pense que c'est pas du tout la même chose. Et là, du coup, il y a eu plein de petites coquilles sur la page de paiement, sur l'activation de la campagne, dans l'email d'onboarding, sur la propriété des documents, enfin des accès aux documents dans le programme, les documents qu'on avait revus, des liens, des choses comme ça. Donc bon. Je pense que redéfinir exactement qui doit faire quoi, le cahier des charges et venir alors contrôler certes de mon côté aussi, mais je pense que mieux définir aussi la répartition des rôles, qui fait quoi, où débute la tâche et où elle s'arrête. Donc voilà, donc ça m'a un peu perturbée parce que du coup j'avais pas le sentiment que c'était, que ça dépendait de moi, et puis finalement je me suis retrouvée à refaire toutes ces petites tâches là. Donc bon, bah ça c'est quelque chose aussi qu'il faut, sur quoi il faut je travaille. Voilà. Après d'autres petites choses à améliorer, comme par exemple pitcher justement le deuxième jour du challenge. J'ai trouvé que ça avait fait un live trop long et moi je trouve que dès qu'on déborde une heure, c'est trop sur des événements de lancement comme ça. Le troisième jour aussi, j'ai dû le faire rapidement parce que j'avais mon fils cette semaine-là, alors lié à un décalage de semaine de garde. Donc, c'était pas plus mal que je l'ai la semaine du lancement parce que ça préserve toujours un certain équilibre. Mais du coup, il avait son activité extrascolaire. J'ai pas voulu le priver de ça. Et donc, du coup, j'ai fait le troisième live du troisième jour. Je devais partir à 15h avec mon fils. Donc, j'ai fait vraiment pour tenir de 14 à 15. Alors, c'est aussi ce qu'on aime, hein. Ceci dit, chez moi, c'est que ça va vite. On va direct au but. Ça tergiverse pas, mais moi je me suis sentie un peu obligée de débiter et j'aime bien aussi prendre mon temps, c'est ma manière aussi de me poser quand j'explique les choses. Et donc bon, là j'étais obligée d'être en rush. Alors après ça, j'ai pas du tout eu de retour par rapport à ça, mais c'est plus pour moi. Donc voilà les petites choses que je peux encore améliorer. Je pense aussi finalement que j'ai pas pour le coup envoyé assez d'emails à ma liste, ou en tout cas pas les bons mails. J'ai pas choisi les mails les plus stratégiques. Donc comme c'est un lancement qui a bien fonctionné, c'est pas très grave, mais je pense que voilà, c'est des petits détails qu'on peut affiner pour des prochains lancements. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses que je me note à améliorer. Clairement, ce que je ferai plus, c'est d'ouvrir le panier en plein milieu d'un challenge, ou en tout cas, si j'ai pas de bonus avec de l'urgence ou de la rareté ou de la quantité, je le ferai plus. D'oublier de dupliquer le tunnel de vente, parce qu'après, on sait pas qui on a converti, d'où vient notre trafic. Donc ça, je pense que j'oublierai pas non plus. Et voilà, donc ça, c'est vraiment les choses que j'oublierai pas. Et ce que je dois améliorer encore plus pour les prochaines fois, donc c'est justement montrer, plus on montre l'intérieur du programme, les coulisses, je crois que plus les gens, ils sont rassurés, ils voient à quoi ça ressemble, etc. Donc ça, je pense que c'est super important, améliorer encore plus mon onboarding client. Et aussi, quelque chose que j'ai mal fait, c'est de... en fait, je me suis arrêtée à la fin du lancement, mais j'ai pas anticipé qu'est-ce que je vais faire de mon groupe Facebook, comment je peux profiter de cette dynamique pour continuer sur du contenu, sur des sondages, sur éventuellement la création d'une nouvelle offre, un questionnaire, une enquête, etc. Donc, je vais le faire, hein, je vais reprendre en cours de route et je sais que... il y aura du monde, mais j'aurais pu un petit peu, en plus j'avais le temps, honnêtement j'ai vécu un challenge, un lancement cool, donc j'aurais pu un petit peu travailler là-dessus pendant ces quelques jours de lancement, et puis avoir un peu un plan, quelque chose pour la suite. Et j'avoue que ça s'est terminé, et d'ailleurs c'est peut-être un peu ce qui m'a valu comme cette espèce de nostalgie et d'arrêt brutal. Peut-être que justement si j'avais anticipé la sortie de ce challenge, la suite après la fin du lancement, peut-être que j'aurais moins ressenti ça. Et tout comme effectivement, c'était trop short parce que j'ai commencé à mettre de la pub en place un peu tard en fait, donc on a fait du mieux qu'on pouvait. Mais effectivement, je vais mettre de la pub toute l'année en place, et notamment sur mes lead magnets. Donc je pense que la prochaine publicité, elle sera sur le quiz, pour continuer en fait à attirer des nouveaux prospects, des leads toute l'année et non pas juste au moment d'un événement comme ça. En tout cas, là, c'était un peu court, en tout cas. Donc voilà, ce bilan, il me sert donc, hein, encore une fois, bah, à pouvoir améliorer pour un prochain lancement, pouvoir repartir déjà de ce qui a fonctionné, de l'existant. Donc en tout cas, moi, j'ai vraiment super bien vécu ce lancement d'une manière générale, malgré que j'ai été archi malade la semaine qui a précédé le lancement. Donc en fait, j'ai vraiment eu une conjonctivite, alors aux deux yeux, hein, parce que pourquoi un seul, ça serait pas drôle. Et c'est la semaine où j'avais tous les slides à faire, tous les emails à faire, le workbook. Et donc, in fine, en fait, ça a doublé mon temps de travail parce que, en fait, je ne voyais rien sur l'écran avec mes yeux. Donc, à chaque fois que j'écrivais un mot ou une ligne, j'étais obligée de cligner des yeux pour réajuster ma vue, en fait. Et donc, j'ai travaillé avec une conjonctivite aux deux yeux presque 14 heures par jour pendant une semaine sur l'ordinateur. Enfin, pendant 5 jours, je me suis cramé. Alors, ça m'a pas coûté en énergie bizarrement parce que j'avais tellement envie de faire ce challenge, ça me mettait tellement en joie que j'avais plaisir à me lever le matin, même si je dormais pas beaucoup et même si j'avais cette foutue conjonctivite. Mais c'était vraiment l'enfer. J'ai vraiment souffert. Je pense que 90% des gens auraient abandonné clairement. Heureusement que j'avais pas prévu d'autre chose en plus d'être focus sur le challenge et que j'avais prévu un emploi du temps pas large mais où j'avais vraiment la place de faire tout ce que j'avais à faire en prévision du challenge la semaine suivante. Donc j'ai tenu bon. Mais voilà, j'avoue que franchement, heureusement que je savais où j'allais, je savais ce que j'avais à faire, j'avais un plan, j'avais un planning, c'était au clair. Enfin voilà, et que quelque part j'ai l'habitude et que c'est aussi ce que j'enseigne. Du coup, bah je pense que voilà, ça m'a permis de pas me démoraliser. J'ai eu juste aussi ce petit moment de grosse frustration quand j'ai ouvert le panier et que j'ai pas fait de vente. Donc là vraiment, zéro adrénaline. Mais bon, j'ai respecté ensuite ma stratégie et j'ai décidé dans l'instant du coup de répondre à ça en mettant le bonus, comme je vous l'ai dit. Donc finalement, c'est une histoire qui se termine bien. J'ai absolument pas été crispée sur les enjeux ou sur les résultats de mon lancement, puisque en fait pour moi les lancements c'est plus un moyen finalement d'attirer des nouvelles personnes dans ma liste et que ensuite ben moi je sais que je communique toute l'année sur mon programme, que mon programme il est disponible toute l'année. Donc du coup j'ai pas été crispée effectivement, je voulais pas non plus attirer des personnes qui se disaient bah c'est ma dernière chance, j'ai besoin de toi, enfin voilà, non, je suis là pour t'apprendre à développer ton business en ligne. Mais effectivement je me suis sentie très à l'aise avec les gens qui ont rejoint le programme et pas du tout crispée et pas du tout à avoir envie que plein de monde rentre à tout prix. Je voulais vraiment que ce soit des gens engagés, prêts à passer à l'action, et non pas qu'ils me voient comme une posture de sauveuse en fait. Donc ça c'est top parce que j'ai vraiment eu ces personnes-là qui m'ont rejoint. Je me suis donc pas sentie fatiguée, sincèrement, vraiment. Et puis, j'ai été aussi très soutenue par mes clientes. J'ai reçu beaucoup de petits mots d'amour, beaucoup de clientes qui m'ont dit que mon lancement les inspirait, qui m'ont félicité, qui m'ont dit que c'était incroyable, etc. Et franchement, je m'y attendais pas. Et vraiment, je me suis sentie dans un cocon. Et c'est là que j'ai vu aussi la puissance de ma communauté, de ce que je crée au quotidien avec mes clientes, m'ont renvoyé aussi, je pense, tout ce que moi je leur donne. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Et puis, le fait d'avoir une business friend aussi, hein, avec Gwen, franchement, on s'est soutenus, on s'est débriefés au quotidien. C'était génial. Quand je dis soutenu, c'est plus dans la répartition aussi du travail. Donc vraiment, entre ma business bestie et mes clientes, c'est vraiment du beau soutien que j'ai reçu. J'ai aussi bien vécu ce lancement parce que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'avais créé l'espace, donc en améliorant mon programme en amont, en améliorant les coachings collectifs en amont. En fait, ça m'a permis de pas m'auto-saboter, de savoir que j'avais créé l'espace pour encadrer toutes ces nouvelles personnes qui arrivaient. Et donc, j'ai pas de syndrome de l'imposteur ou de l'illégitimité ou de la peur ou de freiner les ventes. J'ai rien de tout ça qui est venu me chercher pendant le lancement. Et je sais que ça arrive souvent. Et donc, bien que de jour en jour, les inscriptions augmentaient, j'étais super à l'aise et super confiante. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai carrément eu l'impression de travailler beaucoup moins qu'avant. Et donc, effectivement, probablement que je récolte ce que j'ai semé depuis 2 ans, hein, le fameux effet cumulé, effet boule de neige. Donc, je vois bien que j'ai pas à fournir autant d'efforts qu'au début et que entre le bouche à oreille, la réputation, les témoignages, tout ça, finalement, ça travaille pour moi. Mon contenu aussi, évidemment. Et puis, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire que, oui, ça marche vraiment comme ça. Et je suis heureuse de voir que je peux capitaliser là-dessus. Et quand je repense à mes débuts, à tout ce que j'ai mis en place, à toute l'énergie que j'ai mis, à tout ce chemin parcouru, en fait, je me dis que ça vaut vraiment le coup. Et puis, 2 ans après, je récolte aussi les fruits de tout ce travail-là. Donc en tout cas, je suis vraiment très 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 contente des résultats. Je sais même pas si je réalise vraiment. Et surtout, ça me tenait vraiment à cœur du coup de vous faire profiter de tout ça dans un contenu gratuit, un contenu très complet. Je pense que ça sera la première et la dernière fois que j'aurai un épisode de podcast qui dure 2 heures. Mais j'avais vraiment la volonté de le faire en une fois et de passer à autre chose après. J'ai eu un petit coup de nostalgie à la fin du lancement. Sincèrement, je sais qu'il faut être présente pour un lancement. À la fin, en fait, du lancement, quand moi j'ai eu mon petit coup de nostalgie, c'est là aussi où j'ai à accueillir mes nouvelles clientes qui, elles, sont pleines d'engouement, me sollicitent. Il y a toutes les présentations, des questions sur le fonctionnement, etc. Comme je m'attendais pas à recevoir autant de monde, je pense que j'ai eu un petit moment de flottement entre la nostalgie et puis en même temps le truc de dire là mais il y a quand même une grosse cohorte là qui vient d'arriver et en même temps de me dire j'aurais bien mérité là une petite pause mais ça va pas être possible même si j'ai réussi à prendre quelques jours. Donc c'était pas du tout une fatigue je pense que c'était juste un soufflet qui est retombé et je pense que je peux dire que j'ai vécu un lancement extraordinaire et que du coup j'ai eu des émotions associées. Donc on arrive à la fin. Donc finalement, je pense que si je devais résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit, moi je crois fort que plus les temps sont durs, plus être niché et spécialisé c'est un atout. Je crois aussi qu'on est récompensé du travail qu'on fournit en continu quand on fait pas la girouette et quand on vient peaufiner en permanence ses fondamentaux, donc son message, son positionnement, la connaissance de son client idéal. C'est jamais fini, mais je pense que c'est aussi ça vraiment qui compte, et de toujours améliorer et rester à l'écoute en continu de ses clients et de son audience. Que finalement, il n'y a pas qu'une histoire de prix derrière tout ça, mais il y a aussi une histoire de service. Donc moi, je sais que je propose de l'illimité, je propose du coaching collectif, mais personnalisé. Je propose beaucoup de prêts à l'emploi, donc j'ai un gros niveau d'exigence sur tout ça. Je suis aussi assez disponible et ça m'empêche pas d'avoir un cadre et de poser un cadre. Et je pense que les gens ils sont prêts à payer quand ils voient cette valeur là et quand ça répond vraiment à leurs attentes et ce qu'ils veulent d'un accompagnement. Je me rends compte aussi que les lancements et les challenges ne sont pas morts et je pense que toutes les stratégies fonctionnent encore très bien, mais qu'après il y a les stratégies auxquelles on croit, il y a les stratégies qu'on aime et il y a les stratégies qui correspondent à notre audience cible. Et donc pour savoir, il faut tester et puis il faut essayer aussi justement de rester dans ce en quoi on croit, ce qu'on aime et ce qui va convenir à notre audience. Quoi qu'il en soit, je pense que aujourd'hui, la qualité du contenu gratuit qu'on va proposer compte pour beaucoup et qu'il faut être original dans le sens aussi proposer son propre contenu, pas du copier-coller, pas du vu, et savoir être stratégique aussi dans ce qu'on propose. Et c'est là où souvent on a besoin d'être accompagné. Ne pas avoir peur non plus de répéter les messages, de rabâcher les choses et de pas lâcher le process jusqu'au dernier jour du challenge. être présente sur plusieurs canaux, c'est sûr que ça aide, hein. Moi, j'ai le site, le podcast, Instagram, les emails, Facebook, etc. Donc ça, je pense que à un moment donné, en fait, hein, quand on a un business qui est bien structuré, bien au clair, etc., bah, ça aide. Je pense aussi que du coup, être présente toute l'année, avoir une stratégie evergreen, ça me permet d'avoir une approche plus douce. C'est rassurant pour les gens. Ils ont le temps, en fait, de se familiariser avec mon offre, avec ce que je propose. Ils peuvent choisir quand c'est le bon moment pour eux. Donc, ils n'ont pas peur, en fait, de se sentir pressés, d'investir et de regretter parce qu'ils ont le temps de prendre leurs décisions, hein, en fonction de comment ils fonctionnent. Et donc ça, je pense que c'est un vrai atout aujourd'hui, en tout cas, dans la dynamique dans laquelle on est, d'être là et d'être disponible et qu'on puisse rejoindre notre offre toute l'année. Et puis enfin, je pense que clairement, bah, il faut aussi avoir confiance plus en son offre pour que ça marche et que s'il y a dissonance avec ce qu'on propose et qu'on n'est pas fier de ce qu'on propose et qu'on n'est pas en confiance, bah, on va probablement s'auto-saboter et pas forcément attirer le meilleur. On a fait le tour. J'espère vraiment, comme toujours, que cet épisode, même s'il est très long, j'espère qu'il a été inspirant pour vous, qu'il vous sera utile, que vous avez pu prendre des notes, que même s'il y a une seule stratégie ou une seule petite idée que vous avez retenue, eh ben, n'hésitez pas à me la piquer pour votre prochain lancement. Si vous voulez apprendre à faire tout ça, bah, c'est dans YogiBizLine que ça se passe. Donc, vous savez où me trouver et évidemment, vous trouverez le lien de l'offre en bio pour nous rejoindre. YogiBiz Podcast, c'est enfin fini pour aujourd'hui, j'ai envie de dire. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.